On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous et bienvenue dans On va pas se mentir. Très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce samedi comme chaque semaine de 15h30 à 17h. Aujourd'hui, comme d'habitude, très gros programme, nous allons le plaisir d'accueillir Georges, journaliste, créateur de contenu, il se dit cofondateur de SpaceX et CEO de la Fnac sur Instagram. Merci d'être avec nous.
Merci pour avoir compris.
On recevra plus tard Louis Poisson, auteur du livre J'aurais dû être là aux éditions Fayard, disponible en librairie et en ligne. Nous avons un programme dense, toujours avec autant de coups de cœur et de coups de gueule, de la sortie de GTA 6 à la fin du règne d'Emmanuel Macron ou encore du dépistage de drogue bientôt obligatoire à l'Assemblée nationale. Restez avec nous parce que cette émission promet beaucoup de rebondissements. Bonjour à tous.
Bonjour.
J'aperçois un revenant.
Oui.
David, où étiez-vous?
Merci.
En Baya. Vacances?
Non, j'étais pas loin, j'étais pas là, j'attendais votre coup de fil.
Ah,
ça
sonne comme un reproche.
Donc, pas du tout. Je suis très content d'être là. Très content d'être là.
Super, bah nous aussi, on est très heureux de vous revoir.
Merci.
Georges.
Hey,
George. Comment ça va?
Baya.
On commence à se connaître un peu.
Bah, on se connaît depuis 6 ans peut-être. Ça commence à se
connaître. Vous vous connaissez très bien.
Et on se connaît très bien.
Baya.
On a eu plein de projets ensemble, très amusants.
Plein d'aventures.
Bah, merci en tout cas d'être avec nous.
Plaisir.
On va parler de vous un petit peu après les présentations. Elliot, comment
Bonjour.
Ça va?
Bonjour, ça va et vous?
Bah, oui, très bien. Vous êtes sponsor de... Enfin, vous avez un nouveau sponsor?
Toujours. Ça change de la côte avec vous.
Alex, comment ça va?
Eh ben ça va, je commence à prendre l'habitude là, de vous voir toutes les semaines dans ce studio, donc content d'être là comme chaque semaine. Hein.
J'aime beaucoup votre chemise.
Merci.
Ça fait très parasol à Cannes, je pense que vous avez la vision.
Alors ce qui me dérange, c'est que j'ai totalement la vision en fait, c'est ça qui m'embête, mais j'ai la vision.
Tout ça pour rappeler qu'elle a fait le festival.
Je vais garder
j'espère que vous avez liké les photos.
Non, très bien,
merci. Elliot, vous êtes viré.
Allez.
Donc aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Georges. Vous êtes créateur de contenu, vidéaste. Ah, ça y est, ça commence. Avec plusieurs années de présence sur YouTube, vous vous êtes construit une communauté fidèle autour de vidéos qui mêle analyse, opinion, actualité et débat de société. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, j'aimerais revenir sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre chaîne YouTube et de prendre la parole sur des sujets aussi variés que l'actualité, la politique ou les questions de société?
En fait, moi j'ai commencé à faire des vidéos grâce à Valeurs Actuelles, où on a créé avec Baudouin le média VA+, Baudouin que j'embrasse, et grâce à Geoffroy aussi qui nous a permis de le faire.
Qui est maintenant au JDD,
ouais. Et en fait, quand j'ai quitté Valeurs, je me suis dit qu'il y avait encore une place pour ce genre de débat, et ce genre d'incarnation aussi, parce que ça me faisait un peu chier de voir des vidéos de droite très longues, qui n'étaient pas très intéressantes, et je voulais rendre un peu le fait d'être de droite cool. C'est ce qu'on s'est toujours dit avec Baudouin. Et donc, on avait lancé VA+. Et en fait, quand j'ai quitté VA+, je me suis dit, je vais faire avec mon nom propre. Et ça a plutôt bien marché. Les gens me connaissaient. Donc, l'audience a suivi. Là, on est 226 000 sur la chaîne. C'est cool. Ça continue à grandir. Et puis, du coup, j'élargis un peu les sujets que j'aborde. Il y a toujours un peu de politique, mais il y a un peu de sujets de société.
Vrai que Valeurs, c'était une sacrée époque.
Valeurs, c'était une sacrée époque, ouais. Je regrette un peu, on en discutait avec Alexandre quand la dernière fois que je suis venu, que le prime de la droite,
c'était
Internet.
C'était incroyable.
C'était un peu 2018-2022, quoi.
C'était l'époque Papacito, voilà, Baptiste Marché, etc.
Raptor, Balek, tout le monde était à son prime.
Il fallait être là.
Et on était là. Donc on essaie un peu de recréer ça maintenant, mais je suis moins défaitiste que certains qui disent que cette époque est morte. En fait, je pense que si elle est morte, c'est aussi parce que nos idées se sont un peu propagées et que on n'a plus le rôle de brise-glace.
Bah, de dissident.
De dissident, en fait, parce que maintenant, grâce à CNews, grâce à d'autres, à des candidats comme Zemmour ou Jordan, nos idées rentrent un peu dans le débat public et deviennent un peu la
mainstream.
Norme. Mainstream, ouais.
C'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu l'air d'anarchiste, avec des idées complètement farfelues.
Tu parlais du grand remplacement, t'étais le fou du bus.
C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est plus une théorie.
Et maintenant, voilà, on le voit. Voilà.
Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, jouent un rôle majeur dans la diffusion des idées. Comment percevez-vous la responsabilité d'un créateur de contenu face à son audience?
Bah en fait, il y a plein de choses qui se mêlent dans ta très bonne question, Baya.
Merci.
C'est une très très bonne question. Les gars,
J'ai travaillé.
Non, mais en fait, il y a une certaine responsabilité en tant que créateur de contenu parce qu'on a un message qui est politique. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être soumis à ma à mon audience. Alors, parce que comme c'est une audience entre guillemets de droite ou un peu conservatrice, j'ai pas envie de rentrer dans tous les carcans de la droite conservatrice parce que mon audience l'est. Donc c'est un jeu un peu d'équilibriste entre j'ai mon indépendance, faut aussi que je leur parle de sujets qui les concernent, mais j'ai envie aussi de leur apprendre quelque chose et parfois de m'y opposer. Récemment, je me suis opposé à CNews.
Voilà.
Non, mais du coup, je me suis opposé à CNews et c'était un petit risque parce qu'effectivement, CNews c'est une institution chez nous et s'y opposer, ça peut faire un peu le mec, ouais,
il a le seum, il est pas invité,
voilà, CNews lui donne pas l'heure, du coup il fait une vidéo sur eux, ce qui est pas le cas. Ce qui est vraiment pas le cas en plus. Mais donc voilà, en plus j'ai reçu beaucoup de soutien sur la vidéo. Donc,
tu peux nous rappeler ce qui s'est passé? Enfin, moi j'ai pas suivi.
Non, mais en fait j'avais fait une vidéo sur l'affaire Morandini.
Vous avez le droit de le dire, hein.
Voilà, petit 1, l'affaire Morandini.
3 points, parce que petit point.
Signé maman. Non, j'avais fait sur l'affaire Morandini, sur l'affaire Sarkozy. Et sur le soutien de CNews à Sarkozy que j'avais trouvé un peu dégueulasse. Et ensuite sur le positionnement géopolitique que je trouvais un peu contre-productif. Et en fait, j'expliquais la chute des audiences de CNews par ces 3 points-là. Parce que on a l'impression quand on regarde les audiences qu'elles ont chuté à ces moments-là précisément. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus et en fait je dis pas que c'était une prise de risque de ouf, tu vois, je suis pas parti en croisade, mais c'était quand même assez fort parce que je n'allais pas dans le sens de la doxa qui disait non, faut écouter CNews, la doxa droite dit non, écoute CNews, casse pas les couilles, même s'il y a un truc qui te gêne, c'est la seule chaîne donc on peut rien dire. Non, on peut dire quelque chose.
Il y a une vidéo YouTube qu'on peut aller voir.
On peut totalement aller voir
sur la chaîne de Georges.
C'est ça. Pourquoi CNews s'effondre?
Et selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le paysage médiatique traditionnel et que les créateurs indépendants peuvent apporter de différent?
De l'argent et des couilles. Non, mais c'est vrai.
Dites-le dans le micro. Hein.
Des couilles.
Non, mais il a raison. Mais en fait, je dirais même au-delà des couilles, essentiel au fonctionnement humain. Mais c'est surtout, il manque. On est mis en comparaison avec la gauche, mais qui n'a pas les mêmes logiques que nous, puisqu'elle est subventionnée, puisqu'elle a de l'argent, puisqu'elle a la morale dominante. Elle peut se permettre bien plus de trucs que nous. Donc en fait, c'est un peu malhonnête de nous mettre en concurrence. Mais effectivement, il manque des couilles, donc le courage de dire certaines choses. Et en fait de les assumer comme c'est notre morale et on n'a pas à se justifier. C'est précisément le combat dans lequel n'est pas je trouve le RN.
Mais je vois ça, David s'agiter.
Non, deux choses, je vais revenir sur ce que tu as dit sur la droite cool, ça c'est très juste. La gauche, elle est partout. Ouais. On voit là que LFI essaye de nouer des liens justement avec plein d'influenceurs.
La situation.
Voilà,
bien sûr.
Et ma première question, c'est est-ce que vous avez été contacté peut-être par LR ou je sais pas, des partis, etc., pour faire la même chose? Ils ont toujours une longueur d'avance. Donc c'est vraiment bravo pour ce que vous faites, des gens comme toi et Jordan Florentin, parce que c'est vrai, vous prenez. Non, mais faut. Oui, mais il prend des risques.
Oui, non, mais totalement, mais on n'est pas sur le même créneau non plus.
Oui, c'est pas la même chose. Jordan Florentin, c'est plus journaliste de terrain.
Ouais, c'est ça. C'est pas...
oui. Et sur la prise de risque, vraiment, oui. Bravo. Bravo, parce que derrière, après, c'est des salaires, c'est votre job, votre famille, c'est vous êtes suivi, c'est vous êtes harcelé, c'est vous êtes menacé.
Bien sûr.
Bravo.
Merci. Et alors, effectivement, je l'avais dit l'autre jour à Alexandre de Galzin, ce qui manque aujourd'hui à la droite, donc c'est évidemment, comme je disais tout à l'heure, des couilles, donc assumer ce qu'on pense réellement, mais c'est surtout ne plus dépendre du regard moral de la gauche. Parce que là, il y a encore beaucoup de ça à droite, malheureusement, et je pense notamment au RN. Alors, je rentre pas dans les logiques du RN, ils ont très peur de la diabolisation, donc évidemment, ils mettent un gros paravent entre eux et les influenceurs, mais ils n'ont pas du tout la même stratégie que Mélenchon. Il va parler aux influenceurs, il va parler à la Zawa Prod, il va sur Radio Nova. En fait, il intègre ce monde-là des jeunes, entre guillemets, mais c'est eux qui feront la morale dominante de demain. Mais bref, il l'intègre dans sa campagne que le RN met un point d'honneur à ne jamais.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont très peur. Parce qu'ils ont très peur, parce que je suis un peu dur, mais je comprends. Parce qu'en fait, Mélenchon est dans une logique de faire 25% pour être la force d'opposition du RN. Donc 25%, tu peux avoir une base qui est radicalisée. Le RN, il doit faire 52%. Donc il peut pas se permettre de se mouiller avec des influenceurs dont il connaît pas du tout la ligne. Non, mais je trouve ça très dommage parce que Donald Trump a fait l'inverse. Donald Trump, il est allé sur tous les podcasts de droite pendant la deuxième élection. Il a gagné. Donc ça veut dire que c'est une stratégie qui peut marcher, qui peut fonctionner.
Ouais, mais Donald Trump, il a déjà été au pouvoir, donc il sait, il connaît les rouages.
Bien
il
sûr.
Connaît aussi quelque chose que en France on n'aime pas à droite, c'est vouloir s'imposer et rentrer forcément pas forcément par la porte, mais par la fenêtre et forcer le truc. Alors que comme tu l'as dit très bien, c'est on a peur de la diabolisation. Bah,
oui. Il est fort, Georges. Il est
bah,
fort.
Oui.
Il dit les termes.
Et du coup, il faut, il y a un problème de, on n'est pas assez piquant.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
que à la rigueur, on a Sarah Knafo qui fait des trucs qui sont piquants, mais elle a pas de mandat et bon, ouais. elle est élue maintenant, mais elle a pas de mandat, donc c'est pas percutant. Mais le RN qui peut être percutant, en vrai, ils ont 2-3 députés qui font un peu des petits coups.
Bah, Tanguy, Tanguy est très fort.
Dans les 2-3, il y a Tanguy bien sûr, mais il y a pas de, on les sent pas assez présents. Là, on a un an, je les vois.
Sur les réseaux, notamment. C'est là où c'est dramatique.
Pas de vague.
Et surtout, je rajoute quelque chose à ce que vous disiez, Elliot, parce que vous nous le disiez, Georges, les sujets que vous avez participé à mettre sur le devant du débat public maintenant sont, on va dire, populaires et sont repris par tout le monde. Vous le disiez, il manque des bijoux de famille à droite. Il reste un an. Donc, il reste un an.
Ouais. Toujours classe.
Qu'est-ce qu'on fait en un an pour se démarquer?
Ben, en fait, je sais pas ce qu'on peut faire parce qu'en fait, il faudrait que ça vienne de la direction du RN elle-même, qui choisissent de parler aux influenceurs, mais pas forcément d'envoyer Jordan Bardella sur toutes les chaînes de droite, mais au moins d'envoyer, en fait, de faire connaître les idées. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, moi, ce qui me fait très peur, c'est pas tellement que ça risque de jouer sur l'élection, parce qu'en vrai, en soi, je pense que l'élection est déjà faite, je pense que Jordan sera élu. Mais ce qui me fait très peur, c'est qu'une fois qu'il sera élu, comment tu reprends le contrôle sur le combat culturel ?
Jordan pas Marine. Juste, ça m'a fait tilter. Jordan
On va passer à un autre sujet. J'ai pas d'infos sur le 7 du nom, mais je dis ça parce que c'est le Jordan qui est présenté en ce moment comme le candidat. Alors, je sais pas quel sera le verdict. Je pense très intimement que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tolérer que Marine se présente, mais avec un bracelet électronique.
Oui, enfin, c'est pas se présenter.
Pour créer vraiment la dissension au sein du RN.
Oui, ils vont lui donner moins de 2 ans.
Oui, oui.
On va passer tout de suite à mon coup de cœur. Georges, vous restez avec nous. Hein.
Non, je vais partir.
Non, on a besoin de vous.
Il a dit que la droite n'avait pas
de
vous, il part.
C'est ça.
Mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est évidemment GTA 6. Comme beaucoup de joueurs de ma génération, j'attends ce jeu depuis des années. Grand Theft Auto, ce n'est pas seulement une série de jeux vidéo, c'est un véritable phénomène culturel qui accompagne des milliers de personnes depuis plus de 20 ans. Autour de GTA 6, les polémiques n'ont évidemment pas tardé à apparaître. Certains s'inquiètent de la représentation de certains groupe. D'autres dénoncent au contraire un éventuel recul de Rockstar sur certains sujets sociétaux. On a vu circuler de nombreuses rumeurs concernant la présence ou non d'événements liés aux communautés LGBTQIA+. XYZ dans le jeu, mais à ce stade, rien n'a été confirmé officiellement. Ce qui fait pourtant la force de GTA depuis toujours, c'est sa capacité à caricaturer et à refléter le monde réel. La série a toujours été une satire féroce de la société américaine, de la politique, des médias, de la consommation et de tous les excès de notre époque. Elle n'est pas là pour donner des leçons de morale, mais pour montrer, parfois de façon outrancière, les contradictions de notre société. J'espère donc que Rockstar conservera cette liberté de ton qui a fait le succès de la franchise. J'attends un jeu capable de choquer, de faire rire, de provoquer, de bousculer les certitudes sans s'auto-censurer par peur de polémique du moment. GTA a toujours été irrévérencieux et c'est aussi pour cela que les joueurs l'aiment. Et puis il faut rappeler une chose simple, des millions de personnes ont grandi avec GTA, nous avons grandi avec GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4 ou GTA 5 et cela n'a pas transformé toute une génération en criminels ou en meurtriers. Les études sur les jeux vidéo violents n'ont jamais établi de lien simple entre le fait de jouer et le passage à l'acte criminel. Le jeu vidéo est avant tout un divertissement. Pour beaucoup de gens, après une grosse journée de travail, il n'y a rien de plus agréable que de rentrer chez soi, retrouver quelques amis en ligne, accomplir quelques missions, explorer un monde ouvert gigantesque et décompresser pendant quelques heures. C'est aussi ça, GTA, un espace de liberté, de détente et de partage. Et si GTA 6 réussit à retrouver cet équilibre entre satire, liberté et fun, alors il pourrait bien devenir l'un des plus grands jeux de tous les temps. Personnellement, j'ai hâte d'y être. Alex, vous attendez ce jeu avec impatience ou pas du tout ?
Alors, en soi, pas vraiment. Je vais être honnête. En fait, je vais vous dire la vérité. Je pense que je l'ai trop attendu, qui fait que.
Et vous êtes déçu.
Ouais, je suis descendu du train, en fait.
Vous êtes descendu du train, carrément.
Ouais. Quand il y a eu la com de lancement pour le nouveau GTA, évidemment, on était tous dedans parce que, comme vous l'avez dit, on a grandi avec ça. Moi, j'étais à San Andreas sur Windows 95. J'ai connu.
95.
Windows 95, ouais.
Ouais, ça remonte. Mais alors, il n'y a peut-être pas GTA c'est sur Windows 95, mais en tout cas, j'ai eu Windows 95, c'est sûr. Mais voilà, on les a tous connus, vous les avez cités. Donc, évidemment, on a tous été, on est tous montés dans le train quand il y a eu l'annonce. Mais là, ils ont duré, ils ont retardé la sortie une fois, deux fois, trois fois. Franchement, je suis plus dedans.
Et vous pensez quoi des polémiques autour du jeu, notamment des manifestations LGBT?
Franchement, je pense que comme on le disait avec Georges juste avant, en fait, ça fait partie de toute la flopée de sujets dont la gauche a pris le contrôle dans l'espace public. C'est des sujets où maintenant, quoi qu'il arrive, dès qu'on aura moyen de mettre ce sujet sur le devant de la table et pour pouvoir avancer tel ou tel argument, ils le feront. Il y aura sûrement d'autres polémiques de sujets prisés par la gauche comme ça qui découleront de ce jeu, c'est sûr.
Elliot.
Je suis très content que ça sorte, sans plus. Non, mais en vrai, GTA, c'est aussi la liberté de pouvoir vraiment tout faire. Dans un espace virtuel. Je suis pour, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de liberté dans l'espace public et beaucoup de liberté dans nos vies. On ne peut plus faire grand-chose quand on voit les
prix. On ne peut plus voler des voitures, rouler sur les gens.
Je parle pas de ça. Je parle surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est accessible et que les jeux vidéo, comme vous l'avez dit, Baya, permettent de s'évader et de voir des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont beaucoup plus sympas dans les jeux vidéo. Désolé, ça plaît pas à David.
Non mais en roue libre,
bah, bien sûr, moi je suis
en train de dire GTA, excuse-moi,
c'est GTA, c'est exceptionnel.
C'est un défouloir en fait.
Bah, bien sûr, c'est un défouloir, exitoire. Mais je préfère ça.
Attendez pas tous en même temps, David et ensuite Elliot.
Je suis contre GTA. Non, déjà, je suis génération Counter-Strike.
Oui, mais bon.
Ah, voilà. Excusez-moi. Non, et puis les gens lisent plus, etc. Puis ça, il y a toujours une course, tu vois, aux jeux vidéo.
Ils lisent l'émission, c'est très bien.
Non, dans les jeux vidéo, on le sait, il y a une course à toujours plus de trash, toujours plus, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc moi, je suis contre.
Alors, vu que tu me poses la question, je réponds. non, mais en fait, moi, je suis plus de la trempe de Red Dead Redemption, si on parle de Rockstar, okay. Voilà, surtout le 2, mais il m'a fait chialer. Mais en fait, ce dont j'ai peur avec GTA, c'est que, c'est très réaliste, donc ça commence à être un peu badant. Ça, c'est le premier élément. Parce que, à la limite, quand t'étais sur Saint-Raud 2 ou GTA 1, tu butais quelqu'un, t'avais un carré qui tombait. Bon, c'est marrant. mais là, tu commences à avoir vraiment des gens avec du sang, ça, c'est très réaliste, premier élément. Et deuxième élément, j'ai l'impression, ça va faire un peu philosophe de comptoir, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les jeunes ne vivent plus. Ils ne sortent plus, ils baisent moins, ils boivent moins d'alcool. Non, mais c'est vrai, en fait, ils expérimentent moins les choses. Ils expérimentent moins les choses. Donc j'ai peur que ce que tu appelles défouloir, ce soit une excuse pour ne pas vivre. Moi, j'aurais envie de dire aux jeunes, ça fait un peu le daron, tu vois. Alors j'ai 28 ans, mais j'ai envie de dire aux jeunes, putain, mais vivez dans la rue, allez voir des gens, parler aux gens, aux inconnus, rencontrer des gens, expérimenter la vie, prenez la vie à pleine main et hop, je vais te vivre, quoi. J'ai l'impression que c'est ça ce dont les jeunes ont besoin. C'est pas d'être enfermé chez soi avec des consoles qui sont de plus en plus réalistes, donc forcément la frontière entre le réel et le virtuel va être de plus en plus ténue, et un beau jour on arrivera, un peu comme dans Wall-E, où vivre sur GTA suffira à l'existence, et ça j'en ai très peur.
D'accord avec
moi. Moi je pense pas, je pense que...
T'as pas un micro que je peux lâcher.
moi je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que en fait, à force de tout interdire, bah, dans tous les cas, les gens réussiront à jouer à GTA, que ça soit interdit ou pas, et je pense que... dans les années 90, ça existait déjà, ça n'empêchait pas les gens de sortir. Moi, je pense que par exemple, les réseaux sociaux, ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet.
Oui, oui.
Mais je ne suis pas sûre que, honnêtement.
Regarde les heures que passent les jeunes à jouer. C'est terrifiant.
Oui, mais c'est pas GTA qui va.
Non, bien sûr, mais en fait.
C'est d'une autre génération, hein, GTA.
Bien sûr, bien sûr.
C'est plutôt les 25. Ça part sur 25 ans et après.
Ouais, je pense. Ouais, 40,
c'est dans ces ans.
Mais entretenir la hype autour de GTA, ça entretient la hype autour du virtuel. Tu vois, comme les réseaux sociaux entretiennent une hype autour de l'écran fermé et du monde à soi.
On a tous grandi avec les jeux vidéo. On a tous passé un nombre d'heures incalculable. On aime sortir, on aime vivre, on aime faire la fête.
Mais les jeunes aujourd'hui, non.
Oui, mais pourquoi? Parce que en fait, le problème, c'est pas tant pourquoi c'est réaliste les jeux vidéo et pourquoi on essaye de toujours faire plus énervé, plus réaliste, plus violent, des massacres, des choses comme ça dedans, avec du deal, des choses comme ça. En vrai, aujourd'hui, dehors, c'est impossible quand t'es jeune de t'éclater comme avant.
Oui, mais tu fais semblant de pas comprendre ce que dit Georges.
Je comprends très bien ce que dit Georges, mais en fait, quand tu regardes les choses, tu te dis, on peut plus rien faire à l'extérieur. T'as la chance d'avoir une console. Bah, excuse-moi, je suis désolé. Combien ça coûte d'aller au cinéma?
Ah non, mais
combien
ça coûte d'aller au
cinéma? La console coûte très cher aussi. Bah,
une fois que t'as une console et que t'as un jeu, t'as des jeux qui sont en promo tout le temps.
C'est un sacré investissement.
Je suis
désolé, mais 100 balles le jeu, pardon.
C'est un achat. Si tu décides d'aller au cinéma toutes les semaines sur une année, t'es bien plus cher qu'un jeu vidéo.
Mais c'est pas forcément l'activité.
Attendez, Georges.
Merci. Non mais c'est, en fait je vois ce que tu veux dire aussi, je suis un peu comme toi, moi j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, mais en fait je pense que plus on va vers du réalisme, plus les gens ne sauront plus entre guillemets faire la différence entre les deux, et ça va accompagner un mouvement qui est déjà préexistant. Je suis d'accord avec toi, c'est pas les jeux vidéo qui ont inventé ça, mais c'est un mouvement qui est déjà préexistant de jeunes qui s'enferment, que ce soit dans sur les réseaux sociaux, ils s'enferment dans un monde virtuel ou dans GTA où c'est vraiment littéralement un monde virtuel que tu peux vivre exactement comme une existence que tu n'as pas.
Oui,
c'est pour ça que j'aime pas trop ce délire de cette idée que c'est un défouloir. En fait, le vrai défouloir, ça doit être normalement, c'est ta vie. Tu dois faire des trucs, tu dois faire du sport parce que ça, c'est un défouloir. Tu dois, je sais pas, t'énerver, faire du théâtre, vivre, toucher la terre, enfin faire des trucs, plein de trucs.
Il faut que ça soit mesuré, il faut qu'il y ait un
bien
peu
sûr
de tout. C'est-à-dire qu'il y a un truc que tu développes avec le virtuel,
bien sûr,
qui est différent de ce que tu fais dans la vraie vie. Et
bien
je pense
sûr
que l'alliance des deux est forcément exceptionnelle, sauf qu'aujourd'hui...
Les gens sont plus dans la mesure aujourd'hui. Quand tu regardes, ils passent 3-4 heures par jour sur leur tel...
l'activité, moi je suis à 8h.
Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est te dire qu'ils passent autant de temps sur leur tel que par exemple avec des amis.
Oui. Non, mais il y a beaucoup de gens qui par exemple vivent seuls, se sentent seuls, et ça les aide beaucoup de pouvoir être sur un monde ouvert. Moi j'ai joué beaucoup à GTA en ligne, pour pas dire online, et honnêtement, à certains moments de ma vie où je me sentais seule, où j'avais besoin parce que quand on sort, il y a une certaine pression sociale,
bien
on
sûr
boit de l'alcool, etc. Moi là, ça m'a permis de me retrouver avec des gens que je ne connaissais pas, de partout dans le monde. Voilà, et c'est pas pour autant que je suis devenue une criminelle, même en faisant des missions.
Est-ce que c'est pas le. Je vais faire le lourd de service, mais est-ce que c'est pas le rôle d'un
livre? C'est totalement votre rôle ici. Cette place, c'est la place du lourd de service.
Enfin, c'est
pas
léger,
le rôle
c'est quand même
livre
plus léger, là.
J'ai pas hésité là-dessus, j'ai pas hésité. Non, voilà, est-ce que c'est pas le rôle d'un livre de s'évader, ce genre de choses, etc. Parce que...
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein.
Ah bah, en fait, temporellement, si.
Temps. Oui, il a raison.
Non, il faut savoir éduquer les jeunes pour leur dire, écoutez, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour lire des livres, il y a un temps pour s'éduquer, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux dans ma vie, et pourtant, j'ai commencé à jouer, alors tout le monde va s'offusquer, mais moi, San Andreas, j'ai commencé à jouer à 4-5 ans.
Bah, franchement, qu'est-ce que notre
je suis tellement offusqué.
Elle tuait des carrés à 4-5 ans.
Non, San Andreas, c'était très, très réaliste, on pouvait même aller voir des prostituées hein, avec la
voiture. Mais est-ce que tu penses que c'est sain de montrer ce monde-là, cette liberté absolue à un enfant
Bah, moi je vais vous dire, je préfère largement que mes enfants jouent à GTA
non,
que scroll sur TikTok hein.
Bien
non
sûr, mais c'est la peste ou le choléra.
Non mais voilà,
c'est
pas
ça
du tout. Non,
il y a des jeux pour enfants, il y a des jeux pour plus vieux, pour adolescents à partir de 16 ans, 18 ans. On ne respecte rien comme ici comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en France et je pense dans le monde entier, c'est on met des restrictions,
voilà,
et tout le monde passe au-dessus des restrictions. C'est inconcevable qu'à 4 ans ou à 5 ans, on joue à San Andreas.
Non, mais je dis pas que. Moi, c'est un cas à part.
Bah oui,
moi,
voilà. C'est inconcevable.
Moi, j'ai pas envie que mes enfants jouent particulièrement. Je préfère qu'ils aillent chasser ou qu'ils aillent ramasser des champignons.
On en vient
mais
toujours au même problème.
Je dis juste que c'est pas. Je déteste, en fait, ces convictions liberticides où on interdit tout.
Ah, mais je suis d'accord.
Il faut avoir le choix
d'accord
si on a envie de jouer à
bien
GTA
mais,
ou jouer à GTA.
Mais alors
voilà, c'est pour ça que je défends que j'ai mis ça en coup de cœur.
Non, mais j'aurais tendance à dire, dans ce cas-là, proposons un monde aux jeunes qui fassent oublier GTA.
Merci.
Oui,
il y a SimCity qui permet de construire des villes.
Les termes.
Ramenez-lui un micro. Tiens, bah d'ailleurs, Elliot, vous avez un coup de gueule.
Oui, j'ai un coup de gueule. Qui connaît la nouvelle. Comment dire. Enveloppe qu'il faut trouver pour le Louvre pour le restaurer.
Oula, c'est une belle paire de. Ouais.
Ouais.
Pas mal.
Ah ouais.
Percé, je pense.
100 millions.
Oh, c'est léger, ça.
Ouais, je pense que ça se compte en milliards au moins.
Eh oui, on est à 1 milliard. Alors, oui, c'est mon coup de gueule. J'aime bien être en colère comme
toutes
les semaines.
C'est vous qui allez les financer ?
Ah, si seulement, déjà, j'aimerais qu'on
Nicolas,
les finance à moi. Mais bon. Donc, le Louvre, 800 ans d'histoire, qui passe d'un palais royal à un musée. Avec plus de 35 000 œuvres exposées, 9 millions de visiteurs par an, et qui se retrouve aujourd'hui au bord du gouffre. C'est aberrant. 1 milliard 1 d'euros, c'est la nouvelle somme qu'il faudra trouver pour restaurer le Louvre, car il part à volo. multiples fuites d'eau depuis 2023, inondations dans les douves médiévales, infiltrations dans certaines pièces et donc sur certaines œuvres. Je passe le cambriolage des joyaux de la couronne. On va à perte. C'est-à-dire que le Louvre, c'est le résumé de 40 ans de laxisme sur la culture. C'est un des musées qui voit le plus de personnes venir par an et qui se retrouve aujourd'hui au bord de scandales et qui se entre guillemets se vide, car on est obligé de baisser la jauge de personnes qui veulent aller au Louvre pour pouvoir limiter la casse. Je trouve ça aberrant.
Georges.
En fait, quand j'ai vu l'actu là, quand tu m'as filé la feuille, ça m'a fait penser à Notre-Dame. C'est en fait quand Notre-Dame a brûlé, tout le monde s'est senti touché par ce drame-là, mais personne n'a compris pourquoi. Et en fait, je trouvais que le symbole était extrêmement fort, exactement comme quand on a volé les joyaux de la couronne. C'est extrêmement fort parce que c'est le symbole, c'est symptomatique d'un truc qui va mal en France, à savoir on ne prend pas soin de notre passé. Tu vois, je trouve qu'il y a un rapport qui est malsain à notre passé, où à force de le critiquer, c'est un peu comme une belle symbolique, c'est à force de le critiquer, il est pillé ou il brûle. Tu vois, et en fait, c'est de la parole aux actes. C'est-à-dire que tu passes 50 ans à critiquer l'histoire de France, la chrétienté, l'histoire des rois, et bah bizarrement, il se met à être pillé, des gens arrivent, ils pétalent le truc en scooter, bah pourquoi pas, tu rigoles, ou alors un mégot, bon bref, on va pas rentrer sur la théorie bizarre, mais ou alors un mégot fait prendre feu à Notre-Dame. Donc en fait, je trouve que, alors évidemment, là, on a affaire à une question financière. Un milliard, c'est évidemment beaucoup trop. C'est les Français qui vont payer. Et je pense que sur un milliard, t'as 500 millions qui partent aux fonctionnaires. Mais c'est un autre débat. Mais effectivement.
Il y a l'immigration.
Comment?
Il y a l'immigration.
Eh oui, non, mais bien sûr. C'est vrai. Il faut accueillir les gars. Non, mais en fait, et donc, je trouve qu'il faudrait que les Français comprennent, que ce qui se joue avec, le Louvre, comme ce qui s'est joué avec Notre-Dame, c'est pas uniquement des coûts financiers. C'est aussi un rapport particulier qu'on a à notre passé. C'est qu'à force de le critiquer, il continuera à brûler.
Bien sûr.
Donc en fait, moi, je serais pour, de manière assez radicale, je serais pour qu'on fasse un espèce de référendum pour qui doit gérer le Louvre. Est-ce que ça doit être une entreprise privée qui doit le gérer, donc qui doit gérer sa sécurité, ou est-ce que ça doit être une entreprise publique? Mais si c'est une entreprise publique, il faut que les têtes tombent, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle d'histoire de France. Mais là, en l'occurrence, qui gère ces choses? Ça doit être le ministère de la Culture ou le ministère de
enfin, il y a David culture. Qui prend des notes là. Je crois qu'il va aller demander un crédit à la banque.
Non, mais en fait c'est dramatique. Que, je sais pas, le ministre de la Culture n'est pas démissionné suite à.
Ah, mais il a démissionné.
Il a pas proposé sa démission.
Rachid Dati était sorti.
Depuis le mandat d'Emmanuel Macron, on a eu combien de ministres de la Culture?
Oh, bah je crois qu'on en a eu 3. On a eu Rachid Dati.
J'ai arrêté de compter.
Ouais, on en a eu 3, il me semble.
Et rien ne.
Ah non, mais en fait, le Louvre, c'est même pas ça le problème. C'est que entre les inondations, donc les murs qui sont plus du tout étanches, les vols, les prêts, c'est-à-dire qu'on a prêté plein de pièces qu'on retrouve dégradées, qu'on est obligé de restaurer. Le cambriolage qui a fait extrêmement bien parce que tout le monde a vu que c'était une passoire. On a été obligé de licencier le président, donc l'ancienne présidente. Là, le nouveau président prend les rênes et dit ouvertement devant le Sénat, on est au bord du gouffre.
Et ça avec 47% de prélèvements obligatoires.
Exactement.
Voilà. Georges, je trouve que c'est très juste ce que tu dis quand tu dis oui, on a peur de notre histoire, etc. Patrimoine, on en a honte. Mais si juste on lève un peu la focale, en fait, au bout de 10 ans de Macronie, en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va. Ouais. Donc, il n'y a plus d'argent, il y a toujours des émeutes, il y a toujours l'insécurité.
Enfin, si, il y a de l'argent pour l'Ukraine.
Voilà, exactement. Donc, en fait, il y a...
Non, on va faire tous les sujets casse-gueule.
Puis tout passe.
C'est plus média. La semaine prochaine sera Libération.
Non, mais tout passe. Ouais. Tout passe. 10 ans. Mais ça fait 10 ans. Donc, voilà, on fait le bilan là, au fur et à mesure. Là, il nous reste 1 an. On va faire le bilan chaque mois. Il va y avoir encore quelque chose.
Il reste 10 mois. Ça va, calmons-nous.
Il reste 10 mois.
On compte.
Et puis, on ne demande pas de responsabilité. Ouais. Et puis, Darmanin, il est toujours là pour la faire Liana.
Bien sûr.
Voilà.
Moi, je trouve ça fou quand même. On est un pays, on est l'un des plus beaux pays en matière de patrimoine. Et on n'en prend pas soin. Moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire que c'est 2000 ans d'histoire. Vous allez à Paris, c'est un musée à ciel ouvert. Vous allez dans n'importe quelle ville ou petit village en France. Vous avez des églises, vous avez des endroits magnifiques, vous avez des lieux historiques incroyables et on n'en prend pas soin.
Mais parce que je pense aussi que les Français, c'est là où je pense qu'il faut responsabiliser aussi les Français. Déjà, je pense qu'on a le gouvernement qu'on mérite. Ça, c'est important de le rappeler. Et deuxième élément, si on est aussi, en fait, on a pris l'histoire de France et le patrimoine pour acquis. On s'est dit, en vrai, il est là, pas besoin de le défendre. Mmh. Non, les copains, il faut le défendre dans les mots, dans les gestes. Il faut, faut exiger, quand il y a des drames comme ça, que toute l'administration soit renvoyée, qu'on prenne d'autres boîtes, que, en fait, qu'on fasse
quand vous avez des politiques qui disent à la télé, oui, si j'étais président de la République, je raserais le château de Versailles. Quand vous avez des
Jean-Michel Apathy, non, c'est lui.
Oui, il me semble que c'était lui. Ouais. Quand vous avez ce genre de personnage, mai 68 qui veulent absolument démolir complètement notre patrie. Comment voulez-vous aussi préserver notre patrimoine?
Mais parce que je pense que c'est là, c'est le grand drame de la politique française, c'est que 5% des élites culturelles dirigent contre 95% des gens. C'est-à-dire que Jean-Michel Apathy représente personne. Tu vas dans n'importe où, tu vas en Creuse, en Corse ou dans le nord de la France, les gens veulent tous préserver leur patrimoine et les gens seraient prêts à mettre au panier s'il fallait mettre plus d'oseille. Le truc, c'est que cette idéologie, comme tu dis, 68 Hard, qui par ailleurs a défendu la pédophilie, cette idéologie, non mais c'est vrai,
hashtag la langue,
non mais en fait il faut le dire, parce que tu vois, faut quand même le rappeler, cette idéologie dirige comme contre les Français. Donc si on vire ces tenants de cette idéologie, comme Jean-Michel Apathy par exemple, si on vire ces tenants, la France ira bien mieux, ce sera bien plus sain.
Elliot,
David disait de regarder un peu big picture, enfin grande image, reculer la focale et de regarder. Tu parles de patrimoine. En fait, le problème qu'on a, et je suis pas catholique, mais en fait, à force de vouloir critiquer la religion catholique, parce que les monuments qu'on a sur 2000 ans d'histoire, comme on est un pays
de racines
chrétiennes, bah, on se retrouve avec des monuments, avec des croix, avec du latin, avec symboles catholiques et un historique catholique.
Bien sûr.
Et comme on est constamment en train de le critiquer, d'aller contre. Bah, regardez juste qui est le maire de Saint-Denis. Bali Bagayoko, LFI.
Bravo. Tu l'as bien prononcé.
Bah oui, Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, et qui, en plus de ça, enfin.
Saint-Denis qui est quand même la ville des rois de France.
Exactement. Oui. La basilique. Enfin, vous voyez en fait la démarche. Sûr. On veut critiquer la religion catholique. On veut enlever cette historique, et on fait dans la ville de la basilique de Saint-Denis. Un maire et les fils.
Voilà. Regardez les cours d'histoire de nos enfants. C'est-à-dire qu'on nous abreuve d'histoire de Révolution française en disant que c'est très bien que d'avoir fait couler du sang sur les pavés, etc. Ouais. On enjolive beaucoup les histoires en disant que c'est très bien, que les révolutionnaires ont été formidables, etc. Et en fait, tout notre patrimoine est constitué autour, enfin, globalement de la monarchie. Ouais. Comment voulez-vous que les jeunes aussi apprécient à sa juste valeur?
C'est pour ça aussi que tu l'as rappelé, et c'est essentiel, je pense, c'est qu'il faut avoir, quand tu dis bigger picture, comme tu dis très bien. En fait, prenons la vraie bigger picture qui est le tourisme. Quand les gens viennent en France visiter, ils viennent pas visiter la CAF ou visiter la RATP.
Si, ils viennent visiter la Tour Triangle.
Oui, bon. Mais en fait, ils viennent surtout visiter ce que la monarchie et ce que le catholicisme a légué à la France.
Bah
oui.
Ah, mais les touristes, vous savez, moi, j'ai quelques amis qui sont internationaux.
Tous les noix que tu vois, Audrey Voli, ils sont pas là à dire les copains, ils ont le Tasty Krusty.
À chaque fois, au Master Poulet.
Au Master Poulet, sans
bon. Non, mais vous savez, j'entends souvent ça. Des touristes qui viennent, des amis touristes qui viennent de Charles de Gaulle à Paris, ils me disent ah, mais c'est étrange, on est passé par des contrées exceptionnelles. Ouais. Parce qu'en fait, pour rappeler, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la région parisienne, pour passer de Charles de Gaulle à Paris, il faut passer par le 93. Donc vous avez Sevran, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois. Donc c'est vraiment la route du bonheur. David, vous vouliez dire quelque chose?
Non, que c'est vrai. Regarde, on a signé les accords de paix entre les États-Unis et l'Iran. On a signé ça où?
À Versailles.
Voilà. Ouais. C'est tout. Enfin, Choose France, on le fait où? À Versailles.
Et d'ailleurs, voilà. Versailles qui est en grande partie financé par les Américains.
Mais oui, mais attendez, ça, c'est scandaleux.
Comme tout.
Est-ce que c'est pas... Franchement, on quémande de l'argent à l'étranger. Mais...
Non, mais c'est l'enfer. Mais surtout, encore une fois, je rappelle, avec 47% de prélèvements obligatoires. À la limite, cette gestion-là, tu l'as quand t'as 2% d'impôts, pourquoi pas? Les émeutes, tu les as quand t'as 2% d'impôts, pourquoi pas? Les hôpitaux publics où tout le monde se chie dessus et t'attends 8 heures avant d'être pris alors que t'as le crâne ouvert, t'as 2% d'impôts, pourquoi pas? T'as 47% d'impôts, tes monuments brûlent, tes églises brûlent, tu te fais racketter dans la rue et ta fille va se faire violer, ça commence à casser les couilles.
Georges, est-ce que t'es quelqu'un aussi d'engagé, etc.? Tu sais quel est le principal poste de dépense en France?
L'État.
Les retraites.
Non. Les retraites.
Ah non, mais évidemment, on veut lancer le sujet des boomers, on va faire.
On va sur Macron, hein, on va pouvoir lui
On va pas s'éloigner, David. On va pas s'éloigner, David, mais je vais rester avec vous parce que vous avez un coup de cœur. Un coup de cœur. Gabriel Attal qui tacle Édouard Philippe. Pour une fois que David, un coup de cœur et pas un coup de gueule, il faut en profiter.
Oui, je voudrais qu'on arrête avec Édouard Philippe. C'est bon, je pense que là on peut le débrancher.
Non, non, mais c'est sérieux.
Peut-être
là,
qu'il est déjà mort. Peut-être qu'il est...
Oui,
qu'on
oui,
sait pas.
Parce que je suis
non,
d'accord.
Ça repousse.
C'est vrai, ça repousse. C'est vrai, ça repousse parce que je suis d'accord avec, avec Claire Chazal. En fait, quand il s'exprime, il n'y a rien qui se passe.
Le micro ouais. ne vous a rien fait, c'est pas Edouard Philippe.
Parce que ça me tend. Je comprends pas qu'avec tout ce qu'il a fait, on en est là. Alors, je rappelle le contexte. Edouard Philippe passe dans un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself. De Mathieu Stéphanie, qui est un podcast très entrepreneurial, etc. Et donc, évidemment, ça parle de l'IA. Et puis, à un moment, Edouard Philippe dit, je cite, « Je fais un peu de chat GPT. » Là, gros drame, Mathieu Stéphanie comprend qu'il est complètement à côté de la plaque, alors qu'ils viennent d'en parler, etc. Il dit, « Vous savez, pour la présidentielle, va falloir, etc. » Donc, c'est enregistré. Enfin, il commence à lui tendre une perche, etc. Et puis là, Edouard Philippe rebondit, il dit... oui, vous savez, je connais des gens qui sont dedans et puis j'ai fait. Bref, je vous la fais courte. Ce qu'on veut dire, c'est quelqu'un qui prétend à devenir président de la République et qui vous dit, qui fait comprendre en fait que l'IA, c'est pas son truc.
Je fais ChatGPT, l'expression est folle.
Tu fais ChatGPT, c'est une pratique sportive.
Je fais un peu de ChatGPT. Le point, c'est de dire, ça commence à faire beaucoup en fait, de quelqu'un qui est déconnecté. En fait, c'est le centre qui est déconnecté.
Où voulez-vous en venir, David ?
On a eu Fessenheim, l'arrêt du nucléaire. On a eu les 80 km/h sur les routes départementales. Là, maintenant, c'est l'IA.
Les 50 sur le périph' aussi. Hein.
Les 50, non, c'est Hidalgo. Là,
c'est Hidalgo. Ils sont pas...
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens. En fait, on est encore en train de pousser des gens. Médiatiquement, le système est en train de mettre en avant quelqu'un qui, encore une fois, est déconnecté. Et puis, ça passe. Alors, il n'y a qu'à regarder ses soutiens. Alors, on a Nathalie Kosciusko-Morizet qui est revenue. Alex... Il y a deux semaines, tu as fait une chronique justement
exactement,
sur Nathalie Kosciusko-Morizet.
Exactement.
Il faut écouter la chronique de Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors elle dit, moi je ne suis pas candidate, mais je soutiens Edouard Philippe, parce que vous comprenez, moi j'ai fait des investissements pour l'hydrogène dans le Midwest, et j'ai investi dans l'éolienne en
Californie. David, revenez sur votre coup de cœur de base pour qu'on puisse...
c'est pour dire que, voilà, Gabriel Attal a pris la balle au bon, il a compris, il a dit, moi, mais il est passé chez Apolline de Malherbe, et puis sur France Info la même semaine, pour bien marteler que moi, mes priorités, c'est salaire, frontières, éducation, et bien sûr...
Donc vous avez un coup de cœur pour Gabriel Attal ?
Non, j'ai pas un coup... C'est exagéré parce que
Je sais pas si... Il est déjà en couple, hein. Je sais pas si c'est votre cas, mais...
Non. Mais...
Séjourné.
Je trouve que c'est extrêmement grave de la part de quelqu'un qui veut devenir président de la République. On demandait pas au général de Gaulle de savoir l'atome, etc. Mais il nous a donné la bombe nucléaire. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'utilise pas l'IA. Il y a beaucoup d'emplois qui sont supprimés. Moi, j'ai plus besoin de stagiaires aujourd'hui parce que j'utilise Close matin, et midi et soir. Non, mais bah oui, mais quand tu te lèves le matin, t'appuies sur Claude et puis t'as toute ta veille parlementaire, réglementaire, etc. Je sais ce qui se passe dans tes.
Eliott, vous vouliez répondre à
bon,
David.
Moi, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule. Je trouve que c'est en fait les deux sont la même chose. En fait, ils se tapent dessus, ils viennent du même endroit, ils ont le même mentor entre guillemets qui est Macron et en fait ils représentent la même chose, la continuité de Macron. Il y en a un qui se déguise. Entre guillemets, à dire, je vais laisser Edouard Philippe y aller, il va faire toutes les conneries, je vais reprendre tout ce qu'il dit qui est mal et qu'il se fait taper dessus, je vais reprendre la même chose en disant, moi je le fais, moi je fais l'IA, parce qu'il l'a pas fait, parce que lui il est pas bon. Moi je suis bon, et moi j'étais après lui, et j'étais premier ministre, et on m'a sorti, et moi je suis meilleur que lui. C'est comme ça qu'ils réfléchissent les deux, c'est qui va prendre la succession de Macron.
Je suis pas pro Gabriel Attal, etc., mais je trouve qu'il y a une effectivité, une efficience chez Gabriel Attal, une réactivité qu'il y a chez Gabriel Attal, qu'il n'y a pas chez Edouard Philippe.
Enfin, il est jeune, quoi, c'est juste ça le problème.
Non, il sait décrocher son téléphone, je vais prendre le voile. Je défends pas du tout Gabriel Attal, il a soutenu LFI face au Rassemblement National, etc., en 2024. Voilà,
oui,
donc
il le refera s'il y a un affrontement.
Mais quand il s'est agi du voile, il a appelé lui-même les académies, il a décroché son téléphone pour dire, pour vérifier l'effectivité de... Non, mais pour... Mais,
je veux dire, je sais pas lui, ce que vous avez accepté.
Mais non, et Edouard Philippe qui nous dit, toujours dans le même podcast, qui dit, non mais vous savez, l'administration, elle exécute pas, elle applique pas, mais t'as été Premier ministre. Il y a un truc qui s'appelle la direction la DILA, j'ai oublié. Bon bref, la DILA, c'est ça, en fait, qui publie les décrets d'application. Et puis, il a fait quoi, en fait ?
Georges, une réaction.
Alors, je suis pareil, un peu outré que la France, et ce qu'on nous a vendu comme les partenaires européens, n'aient pas pris le tournant de l'IA. Jusqu'à preuve du contraire, on utilise tous des IA américaines.
Il y a Claude, maintenant.
Ouais, mais c'est américain.
Ah, Claude, c'est américain aussi.
Anthropique.
Ah,
ouais.
Je me suis fait dupé. Je me suis dit, c'est Claude.
Tu sais, Claude, c'est un ami à moi, c'est français. On est dans le Périgord.
Non, non, c'est une amie à moi.
C'est une amie à moi. C'est Yel. Non, ouais. Non, mais je veux dire que c'est américain, en fait. Et ce qui me gêne beaucoup, alors évidemment, sur le fait que les élites soient complètement déconnectées, c'est très vrai. Mais ce qui me gêne encore plus, c'est qu'on nous a vendu le monde européen, la connexion européenne, comme quelque chose qui allait faire venir un peu l'Airbus de 2.0. En fait, non, on s'est fait avoir partout et on continue à filer de l'oseille à l'Europe alors qu'elle ne fournit rien et que je crois Mistral est un drame absolu. Bref, voilà.
En parlant de Gabriel Attal et d'Edouard Philippe, Alex, on va passer à votre série Un jour un candidat, et cette semaine on va faire un point sur les candidats déjà bien nombreux pour 2027, car dans un peu moins d'un an, le règne d'Emmanuel Macron prendra fin.
Exactement.
Vous savez que c'est ma série préférée.
Je sais, et apparemment David Attal aime bien aussi, il me l'a dit juste avant de rentrer dans le studio. Donc exactement comme vous l'avez dit, Baya, le mandat du président de la République s'achèvera officiellement le 14 mai 2027, soit 5 ans jour pour jour après son investiture en 2022. Et l'usage veut que les dates de la prochaine élection présidentielle soient annoncées un an avant l'échéance. Mais vous connaissez Emmanuel Macron, il ne fait rien comme tout le monde et c'est lui le boss. Donc évidemment, à l'heure où on se parle, on ne connaît toujours pas la date à laquelle on élira notre prochain président, mais on peut le comprendre car l'emploi du temps d'Emmanuel Macron a été très chargé ces derniers temps. Entre l'organisation du G7 et la Coupe du Monde, il est très concentré et il doit rester fixé sur ses objectifs. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit lors de son discours de clôture à Évian la semaine dernière.
Je l'assume totalement, parce qu'à chaque fois, en tenant une position de fermeté, ou en réengageant et en accueillant avec chaleur, je défends les intérêts de mon pays. Et quand je défends les intérêts de notre pays, de la France, au fond, je suis comme les Bleus. Que je joue à l'extérieur ou à domicile, mon but, c'est de marquer des buts. Voilà.
Alors, en attendant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une période de campagne qui devra durer forcément moins d'un an.
Mais à votre avis, pourquoi Emmanuel Macron retarde autant l'annonce de la date de la prochaine élection ?
Comme les enfants, ils veulent l'attention.
C'est ça.
Oui, il veut nous tenir en haleine, il veut continuer encore à être le leader, à tenir l'agenda médiatique, comme les enfants.
Genre.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a une question d'attention et surtout, je pense qu'il y a aussi une question de sabotage. Il y a une question de sabotage parce qu'en faisant ça, il retarde l'entrée en campagne des candidats et on le voit même parallèlement. Il place ses copains à des postes clés au Conseil
constitutionnel.
Voilà, c'est ça. Et il utilise ce pouvoir-là justement pour contrecarrer l'élection et l'élection d'un président RN, ce qui ferait que les gens se diront « Mais attends, c'est marrant, le RN, c'est de la merde, venez, on réélit Macron. » Je pense que c'est vraiment, il est dans une matrice comme ça. Ou alors, il veut être président du monde et on me l'a pas prévenu. Mais je pense qu'il est dans une matrice un peu de 1. On garde l'attention. 2. On sabote l'élection, comme il l'a fait en 2022 avec l'Ukraine. Et 3. On positionne dans l'esprit des gens, pourquoi pas un retour.
Elliot.
3 points. 1. Sabotage, en effet. Il place ses pions et il laisse les gens faire, entre guillemets, leur petite guéguerre et s'auto-saboter. Et donc, lui prend le temps de regarder du haut de son piédestal. Le deuxième point, je pense que c'est aussi parce que comme il laisse ses pions se placer, l'ARCOM ne peut pas sanctionner de temps de parole tout le monde. Et donc, du coup, ça leur permet d'avoir un peu une libre antenne, entre guillemets, pour tout. Et le troisième point, je pense que c'est surtout parce que c'est un énorme égoïste et qu'il est en train de se faire kiffer à droite à gauche. Donc, tant qu'il peut profiter, il le fait.
Emmanuel Macron, c'est 2 mandats consécutifs. Le dernier à avoir fait, c'était Jacques Chirac. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on se souviendra longtemps de cette période 2017-2027.
Alors ça, je vous l'accorde, parce que c'est vrai que l'ère Macron, elle aurait été marquée par énormément d'événements marquants, forcément. En rapide, sous Emmanuel Macron, c'est quand même les gilets jaunes, le Covid et le confinement, l'affaire de la gifle avec la fameuse phrase « Abat la Macronie », l'affaire de traverser la rue pour trouver du travail, la fermeture de C8 et Énergie 12, l'affaire de la gifle de Brigitte Macron, les lunettes de soleil for sure. Et faut quand même, s'il vous plaît, qu'on se rappelle qu'à la base, c'est un mec qui a pécho sa prof de français.
Hein. Ouais, oui, bravo.
Il était bien plus âgé que lui.
Ouais, il avait 14 ans à l'époque, et non 16.
Donc voilà, et en tout cas, on sait très bien que l'une des priorités d'Emmanuel Macron, ça a toujours été l'international, et sur ce volet-là, apparemment, il a été très bon, surtout cette année, et je peux vous dire que c'est la vérité, parce que c'est l'ancien Premier ministre François Bayrou qui l'a dit au micro de BFM TV.
Je ne renie pas les derniers 3 jours que nous venons de vivre. Qui, parmi les chefs d'État européens, est capable d'avoir fait ce que le président de la République française a fait ? Qui a réussi à insérer son pays au cœur même des décisions mondiales ? Qui donne cette image de la France et permet à la France de jouer ce rôle-là ? En 5 mots, la raison pour laquelle je ne crache pas dessus, il est à la hauteur de sa responsabilité internationale.
Je sais pas, il parle de qui là? Il parle pas de Macron. Il va parler de Gaulle, non, c'est un documentaire. Hein.
Alors, je vous confirme, vous avez très bien compris, ne tarie pas d'éloge sur la dernière année de mandat d'Emmanuel Macron. Là. C'est exactement ça.
Il y en a un qui cherche à être placé. Hein.
Mais ouais. Georges, qu'est-ce que vous retiendrez du mandat
déjà,
de Macron?
Déjà qu'il parle comme un débile.
Non, de
alors pas de Bayrou, hein, d'Emmanuel
non,
Macron.
De Macron.
Du mandat Macron.
Non, qu'est-ce que je retiendrai?
Un événement, un scandale.
Un événement. Non, bah, en vrai, je pense, premier degré, ça doit être les périodes de confinement.
Ouais.
Qui m'ont beaucoup marqué parce que j'ai vu ça aussi comme je dis pas que enfin j'ai pas une lecture bizarre du Covid, c'était là, tous les pays européens en ont souffert et tous les pays mondiaux aussi, mais il y a une manière de gérer ceux qui ne voulaient pas se vacciner, il y a une manière de un rapport à la direction, un rapport aux Français que j'ai trouvé particulièrement malsain, mais qui s'est répété ensuite dans les petites phrases, ces fameuses petites phrases d'Emmanuel Macron. Mais peut-être t'en as cité une, mais t'as je pense il y en a une qui est encore plus forte. Il était dans une gare, il a dit il y a ceux qui sont tout et ceux qui sont rien.
Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, vous pouvez c'est rencontrer vrai. Deux types de personnes à la gare, il y a ceux qui vont au travail et c'est pas ça.
Ouais. Non, vous pouvez rencontrer des gens
qui ont tout et ceux qui sont rien.
Ouais. En fait, ça traduit un rapport au peuple que je trouve, en fait, qui explique aussi en partie pourquoi il s'aime autant. S'il reste autant, s'il veut saboter autant l'élection, c'est qu'en fait, il méprise tout ce qui touche de près ou de loin à son environnement, notamment ses sujets, à savoir nous, les Français.
David.
Georges, est-ce que tu es en train de dire que tu as découvert le deux poids deux mesures durant le Covid, c'est-à-dire qu'on a réussi à appliquer à des gens de s'auto-autoriser, ouais. Voilà, alors que quand il y a des émeutes, on dit on peut pas courir derrière chaque
bah David, un événement ou un scandale?
Un événement ou un scandale
ou une mesure.
Bon, on reviendra vers vous après, Elliot.
Covid, je suis d'accord, mais pour moi, c'est la perte de toutes les stars qu'on a perdues. Surtout Johnny. C'est tellement long, ce...
Je crois que c'est pas Macron qui l'a tué.
C'est lui qui a le plus de décès de stars. Ah, je suis désolé, Belmondo, Delon, Johnny. Ouais. Enfin, même ça, il les a tous eus sous son mandat. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible.
David.
Rien, c'est le vide, Macron.
D'accord, merci. Quand vous vous réveillez, vous me dites. A priori, une chose est certaine à 100%, Emmanuel Macron ne sera pas le prochain président de la République et on a peut-être parfois du mal à le réaliser, mais l'après-Macron, c'est pour très bientôt.
Eh oui, ça va arriver très très vite et d'ailleurs, on va faire un point sur les personnalités qu'on a déjà évoquées depuis le lancement de l'émission. Alors, parmi les candidats déclarés, on a déjà Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Karim Bouamran, Xavier Bertrand, sachant qu'il y aura aussi un candidat Reconquête qui sera sûrement Éric Zemmour, sans oublier que dans quelques jours, on saura enfin si Marine Le Pen pourrait être candidate ou non. Je rappelle quand même que François Bayrou a fait une annonce officielle de non-candidature récemment et beaucoup de personnes peuvent encore se lancer dans la course, donc David Lisnard, François Hollande, Olivier Faure, vraiment tout peut encore se passer. D'ailleurs, Emmanuel Macron a accordé une interview exceptionnelle à l'émission L'Événement sur France de la semaine dernière. Pendant 40 minutes, il a répondu aux questions de Caroline Roux qu'il a interrogé sur son remplaçant à l'Élysée l'année prochaine. On écoute sa réponse.
Est-ce qu'il vous arrive parfois d'imaginer là, ici à votre place, votre successeur?
De ces choses-là, on ne parle pas.
On y pense.
Et on n'est pas obligé de dire tout ce à quoi on pense.
Quelle qualité doit-il avoir?
Les Français le savent, mieux que quiconque. Je leur fais confiance. Ils savent choisir ce qui est bon pour eux et saisir leur destin. Nous sommes un grand peuple. Et nous sommes un peuple très politique au sens noble du terme. Les Françaises et les Français aiment la politique et ils savent choisir ce qui est bon pour leur avenir.
Pourtant, on dirait moi quand j'ai voulu quitter mon ex.
Alors après, évidemment, Emmanuel Macron, il a été élu deux fois de suite, hein, donc c'est pas surprenant qu'il estime que les Français votent correctement, évidemment. En revanche, il a fait une vraie réponse de politicien parce qu'in fine, on ne sait rien de ce qu'il pense à propos de son successeur. Donc,
Moi, j'ai une question. Quelle qualité devrait avoir le remplacement d'Emmanuel Macron, Georges?
Le remplacement d'Emmanuel Macron, je pense qu'il devrait, exactement comme ce qu'on disait, on retourne un peu à ce qu'on disait au début, c'est avoir des couilles et prendre des décisions que personne ne va prendre, à savoir, il y a des enjeux de la retraite financière, il y a des enjeux sur la sécurité, il y aura des morts si on veut rétablir la sécurité dans ce pays. C'est un changement de braquet à 90 degrés et pour ce faire, il faut aimer les Français, détester l'injustice et avoir des couilles.
David.
Du tempérament, ça je suis mille fois d'accord parce qu'on voit qu'aujourd'hui l'administration est en roue libre, qu'Emmanuel Macron a usé et abusé là de son pouvoir de nomination, c'est-à-dire que le prochain président de la République ne pourra quasiment rien faire. La Banque de France,
Conseil d'État,
la Cour de cassation, etc.
Sans parler du gravissime. Conseil constitutionnel, etc.
Et t'as dit Emmanuel Macron a été élu deux fois. Est-ce qu'on peut rappeler quelque chose?
Il n'a pas fait campagne.
Emmanuel Macron n'a pas été élu. il a été élu contre, comme disait très bien Jean-François Copé, c'est facile de se présenter face à Emmanuel, non, face à Marine Le Pen.
Il le voit pas comme ça. Lui, il a été élu point final.
Je pense qu'il le voit comme ça.
Je pense qu'il sait
très bien qu'il n'a pas d'assise électorale.
Ce que doit avoir un président, oui, je suis d'accord, il doit avoir des couilles, même si c'est une femme. Je préfère.
Ça, c'est dans le pays des wokistes.
Non, mais justement, avoir de la poigne.
Brigitte. Je plaisante.
Les propos de Georges.
Non, mais il doit avoir de la poigne. Il doit aussi savoir remettre de l'ordre à la fois dans les finances, arrêter de recevoir 100 pour donner 142, comprendre que le peuple n'est pas juste des petits hommes qui travaillent pour lui et qui sont là pour lui donner des impôts, mais qu'on est un écosystème et que sans nous, il n'est rien. Et troisièmement, je pense qu'il doit avoir la vision de un quinquennat. On devrait faire qu'un quinquennat et pas deux. Et assumer, voir un septennat, revenir à un septennat. Et assumer que si au bout de 4 ans, t'es pas capable de faire quelque chose, casse-toi.
Eliott,
merci Eliott.
Tu fais comme eux.
Merci Georges d'avoir été avec nous et puis vous revenez quand vous voulez.
Bah non, mais quand vous m'invitez.
Vous êtes toujours invité. Vous êtes toujours le bienvenu, Georges.
C'est adorable, merci beaucoup.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, on ne le dit pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Louis Poisson est avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Eliott, c'est à vous.
Bonjour Louis Poisson.
Bonjour.
À l'âge de 14 ans, votre vie a basculé lorsque votre mère et votre petit frère ont été assassinés dans des circonstances tragiques. Des années plus tard, vous publiez « J'aurais dû être là », un livre bouleversant dans lequel vous racontez pas seulement un drame, mais le chemin d'une reconstruction après ces blessures. Et j'ai plusieurs questions pour vous. La première, c'est comment on fait pour se reconstruire après un drame comme ça ?
Il n'y a pas vraiment de formule magique, je pense. Pour ma part, ça a été, je pense, mon éducation qui a beaucoup aidé. J'ai un père qui a pas mal assuré à ce niveau-là. C'est vraiment, je pense, l'éducation principale et ensuite les fréquentations. Mais c'est aussi, ça découle de l'éducation. Voilà, clairement, mes amis m'ont beaucoup aidé aussi. Ma famille, mais particulièrement mes amis aussi. Ouais.
Vous pouvez revenir sur le drame, du coup, la perte de votre mère et de votre frère.
Bah en fait quand j'ai eu 14 ans j'apprends que mon petit frère et ma mère ont été assassinés, donc mon père me l'apprend un soir, je suis en train de jouer à la console et il m'apprend ça, donc à partir de ce moment là il se passe un espèce de truc un peu bizarre que le cerveau met en place, c'est un truc de déni, il y a un déni qui se met en place et on continue à vivre avec cette chose là sans faire le deuil réellement parce qu'on est on essaye d'esquiver la réalité et en fait, on se reconstruit un peu naturellement par l'enseignement qu'on a eu, par les amis, ce que je disais juste avant, mais ça fait partie de ma reconstruction.
Votre père était toujours là. Donc vos parents étaient divorcés si j'ai...
Ouais, c'est ça. J'ai jamais connu mes parents ensemble. Ils étaient divorcés dès mon... J'avais un an, quoi.
Du coup, votre père a assuré. C'était quoi ses mots ?
Ses mots sur le moment, ils étaient compliqué parce que c'était des mots très durs en soi à entendre, mais je pense qu'il a pas cherché à essayer de masquer la réalité. Il m'a clairement dit les termes, comme on pourrait dire. Mais il a dit vraiment ta mère et ton frère se sont fait assassiner, quoi. C'était direct, mais derrière il a cherché à maintenir un cadre, à pas me victimiser surtout. En fait, à pas me positionner comme quelqu'un qui est à cajoler plus particulièrement. Au contraire, il s'est plutôt dit, je vais serrer la vis. Parce que je pense que dans ces... En plus, à l'adolescence, je pense que c'est des moments où on peut plutôt partir en vrille et il a senti ce truc-là.
Il a réussi à vous tenir pour pas vriller.
Ouais, complètement. Bah, il a des trucs à la con, mais il a... Par exemple, au lieu de me laisser aller chez des potes, il avait plutôt tendance à me proposer que mes amis viennent pour pouvoir garder un contrôle, quoi.
Et du coup, dans une... quand on grandit, à 14 ans, on a un drame. Quand on grandit comme ça, on sait que beaucoup... À l'école, c'est facile d'être la cible. Est-ce que vous avez eu des menaces, enfin vous avez été un peu victimisé suite à ça ou pas?
Victimisé par les profs, oui. Plutôt. On va dire que dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir redoublé deux fois, ce qui m'a permis d'être le plus grand, en gros, en quatrième, d'imposer un peu ce truc. Donc j'ai jamais eu de moquerie. En plus, je faisais partie un peu du groupe, entre guillemets, des mecs qui faisaient du foot, les gars en survêt et tout, donc j'ai jamais eu de moquerie. Par contre, effectivement, les gens en parlaient entre eux, mais c'est surtout les profs qui ont changé complètement de façon d'agir avec moi, où je suis passé du cancre qui foutait un peu le bordel en cours, que les profs voulaient dégager du collège, au...
la fatalité.
À l'élève qu'il faut cajoler, si tu veux
prendre
venir,
des pincettes.
Si tu veux venir me parler à la fin du cours, tu n'hésites pas. Alors que c'est des profs qui voulaient me virer une semaine
du
avant.
Coup, quand on a des mauvaises notes, on n'est plus sympa, on n'est plus doux.
Ouais, même des profs qui venaient pendant les contrôles, qui venaient un peu m'aider, alors que, enfin, voilà, il y avait vraiment ce truc-là. Mais je peux comprendre. En fait, je pense que pour un adulte, c'est compliqué de réagir, enfin même de savoir comment réagir. Même pour les parents, même pour la famille, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est trop rare comme cas pour avoir les bons mots et savoir comment faire pour s'y prendre, quoi.
Est-ce que avec le recul, les profs sont assez formés face à
non,
ça?
C'est sûr que non. De toute façon, c'est des cas qui sont beaucoup. Enfin, c'est des cas particuliers. On peut pas former un prof sur comment gérer des enfants qui ont, enfin, des ados qui ont vécu ce genre de choses. Maintenant, je pense que c'est un peu une fibre naturelle. Il y a des profs qui se sont très bien comportés, qui ont été plutôt bons dans la pédagogie, et d'autres qui étaient assez minables par leur façon d'être, où on voyait que c'était un peu faux. Ils se sentaient un peu obligés de faire les gentils avec moi, quoi.
Est-ce que aujourd'hui, quand vous avez écrit ce livre, c'était un moyen de mettre de côté, de grandir, ou c'était quelque chose qui vous a toujours trotté?
Sur le moment, je pensais pas du tout que ça allait être un peu thérapeutique quand je l'ai écrit. Mais en fait, au fur et à mesure, en écrivant le livre, à la fin, je me suis rendu compte de l'effet thérapeutique aussi, parce que ça a permis d'ouvrir un sujet qui était quand même très tabou dans la famille. Et en fait, je me suis rapproché un peu plus de ma sœur, de mon frère, que j'ai revu pour l'écriture du livre. Et en fait, on a vachement plus parlé de ça entre nous, même avec mon père, qu'avant. Donc ça a clairement permis au moins ça, quoi.
Aujourd'hui, vous arrivez à passer, vous êtes passé outre. Vous êtes journaliste?
Non, je suis pas journaliste. Enfin, je travaille dans la com.
Oui, la com digitale,
ouais,
c'est ça.
Mais oui. Non, je suis passé outre par la force des choses. En fait, je me suis jamais dit que ça allait. Enfin, ça fait partie de ma vie. Ça a forcément joué dans ma personnalité. En gros, ça me fait relativiser pas mal de choses, et ça me rend aussi moins frileux de pouvoir tenter des choses au niveau pro. Je travaille dans la com maintenant. Il y a 4 ans, j'étais vendeur chez EasyCash, quoi. J'ai essayé de, en fait, j'ai pas peur de risquer des changements, parce que je me dis qu'il peut rien m'arriver de très grave.
On est plus un caméléon quand on a ça jeune. Ça fait de nous des caméléons plus tard.
Oui, c'est possible. En tout cas, ça fait de moi quelqu'un qui a pas peur de enfin, qui n'a pas peur du risque en soi, parce que il peut rien m'arriver de pire que ce que j'ai déjà vécu. C'est un peu ce que je me dis en règle générale. Mais ouais.
Merci.
Bonjour Louis, merci infiniment encore une fois d'être avec nous. Alors moi, j'ai lu votre livre et ça a été un peu une révélation, parce que je vous connais depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise, parce qu'on a tendance à croire que des personnes qui vivent ce genre de drame dans leur vie vont être des personnes très fermées. Mais vous, quand je vous ai rencontré, enfin, depuis que je vous connais, vous êtes une personne très extravertie, avec beaucoup d'humour, notamment sur vos réseaux sociaux. Moi, j'avais une question sur cette fameuse boîte. Est-ce que vous l'avez encore?
Ouais.
Vous la regardez de temps en temps?
Non, je la regarde pas de temps en temps. C'est là pour le livre, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup consulté, donc j'ai un peu mis en bordel cette boîte, qui était à la base, c'est une boîte à chaussures, quoi, avec des dossiers dedans, avec les coupures de presse, avec les procès-verbaux, enfin tout ça. Et quand j'ai écrit, donc je me suis appuyé sur ça pour faire presque un travail journalistique au final. Hein, et j'ai appris tellement de choses en ouvrant cette boîte sur ce qui s'était passé. Donc j'ai appris des choses 20 ans plus tard. Donc c'était vraiment un taf de journaliste, clairement. Et en même temps, de journaliste sur sa propre vie, donc d'apprendre des choses. Les rapports de médecins légistes, moi je les ai vus il y a 2 ans, quoi. Donc c'est des choses qu'on découvre qui sont quand même assez surprenantes.
On a l'impression quand on lit votre livre qu'il y a une sorte de... C'est une sorte d'hommage aussi à votre papa, comme une sorte de merci, un peu. Il y a beaucoup de pudeur entre vous. Enfin, votre père a toujours pris des pincettes, mais vous a donné beaucoup d'amour, d'une certaine manière, enfin à sa manière.
Oui, c'est ça. C'est surtout un livre hommage à mon père, en vrai, si on veut être tout à fait honnête. Ce qui peut surprendre, parce que quand on parle d'un livre qui parle d'un double homicide sur sa propre mère et sur son petit frère, on s'attend à un livre qui va être plutôt larmoyant. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça, il y a Netflix pour ça. Je leur laisse le soin de faire des choses un peu pour...
Sensationnelles.
Ouais, sensationnelles. Et c'était pas du tout le but de faire quelque chose de sensationnaliste. Et je voulais pas que ce soit glauque, surtout. Je voulais que ce soit plutôt un livre qui parle de reconstruction et aussi, surtout, de pourquoi aujourd'hui je suis en vie et pourquoi je m'en suis sorti derrière. C'est aussi en grande partie par rapport à mon père et à l'éducation. Et c'était aussi un peu l'idée de remettre... la figure du père, un peu redorer la figure du père, quoi.
À quel moment vous avez eu ce déclic d'écrire ce livre ?
Il n'y a pas très longtemps, en vrai. Hein. Ça s'est fait... c'est des concours de circonstances. D'ailleurs, je salue Azilise Lecor. C'est elle qui m'a clairement...
Convaincu de
l'écrire. Je lui avais pitché un peu l'idée. Et elle m'a clairement un peu motivé en me disant « Tu devrais le faire ». Enfin, ça l'a touché. Et ensuite, elle m'a dit « Tu devrais le faire, c'est hyper important ». Et donc, elle m'a pas mal aidé là-dedans.
Journaliste au JDD.
Exactement. Et ensuite, pareil, même Victor Lefebvre aussi qui travaille là-bas, pour info, je bossais à côté. Donc ça m'a permis d'avoir ce genre de contact. Sinon, je pense que si j'avais été encore directeur chez EasyCash, en fait, le fait que ça soit même pas... c'est pas pensable, en fait. Là, c'est que j'étais confronté à des gens qui étaient déjà dans ce milieu-là. Donc ça m'a permis d'avoir au moins l'idée, quoi.
Mais d'ailleurs, j'avais une remarque sur la manière d'avoir écrit votre livre. C'est très naturel. En fait, on arrive vraiment... J'ai l'impression que vous avez écrit... Vous me dites si je me trompe, mais on a l'impression que vous écrivez en même temps que vous pensez. C'est-à-dire que c'est très...
Des notes d'iPhone.
Oui.
Ouais, mais c'est ça.
Mais ce qui est très agréable à lire aussi, c'est-à-dire que c'est très naturel, ça se voit que ça n'a pas été réécrit derrière.
Je voulais pas.
Il n'y a pas des formes... comment dire, des formules, la Chateaubriand.
Des longues tirades.
Voilà, des longues tirades, ce n'est pas du tout romancé, c'est vraiment pur et dur comme la réalité.
Ouais, je voulais pas du tout faire des longues tirades et m'inventer un style. Je suis pas... c'est pas du tout... J'ai pas une culture littéraire particulière, donc je me suis dit je vais pas commencer à faire un peu des formes des styles des figures de style, alors que non, je me suis dit je vais écrire vraiment comme je pense, voilà, à savoir que là, j'ai quand même été aidé pour l'écriture par une femme dont c'est le métier, qui m'a permis de faire la structure, mais quand même suggérer des choses, si ça me parle pas, je disais non, moi mon texte il est bien comme ça. Je veux le laisser comme ça. Et voilà. Mais par contre, pour la structure, étant donné que ce n'est pas mon job et que ce n'est pas un milieu que je connais, elle m'a clairement aidé pour ça. Et je la remercie parce que c'est quand même c'est un vrai exercice particulier d'écrire un livre. C'est quelque chose quand même, c'est un vrai métier. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire confiance à des gens. Donc c'est Fayard qui m'a mis à disposition cette personne. Et sans elle, ça aurait été compliqué de faire quelque chose. Ça aurait été sûrement trop décousu. Donc ouais.
Il y a quelque chose de très touchant aussi et de très naturel dans le livre, c'est que vous exposez réellement les faits. On peut l'observer au début, vous n'essayez pas de romancer la relation que vous avez pu avoir avec votre maman, c'est-à-dire que vous parlez d'une éducation assez, bancale.
Ouais.
Je sais pas comment dire.
J'utilise le terme cassos dans mon livre parce que en fait il y a un peu. Oui. Non mais il y a un peu ce truc là, mais c'est même pas péjoratif parce que la preuve en est que je voulais vivre chez ma mère.
Oui.
À 14 ans, je voulais vivre chez elle. Donc c'est que ce mode de vie me séduisait. Mais en fait c'était de l'amour démonstratif avec ma mère. C'est des trucs. C'était être sur un canapé à regarder le Big Deal, quoi. Mais à manger des frites surgelées, des trucs comme ça. Enfin, et j'aimais bien ce truc-là. En plus, elle était beaucoup plus laxiste que mon père, donc il y avait une facilité aussi là-dessus. Et c'était l'aspect aussi famille nombreuse, parce que c'est du côté de ma mère qu'on était quatre enfants, alors que du côté de mon père, je suis fils unique. Et c'est un peu moins fun, ce côté-là. Même si pourtant, je voyageais avec mon père, j'étais plus gâté avec mon père. Mais la vie de famille et la vie chez ma mère était beaucoup plus intéressante pour moi.
Plus réconfortante.
Ouais, plus réconfortant. Et puis il y avait vraiment cet amour voilà, démonstratif. Hein, ma mère pouvait me dire je t'aime. Mon père, c'était pas la même ambiance, quoi. Mais en même temps, c'était un amour, comme on disait au début, c'est un amour qui est très différent mais qui est un amour plus pudique, mais que j'ai compris bien après, quoi.
David, vous avez une question ?
Oui. On voit souvent des personnalités donc, qui s'expriment sur leurs blessures, leurs drames qu'ils ont dans leur vie. Et on dit souvent que ça peut être un ressort pour justement, dans la vie, s'en sortir, etc. Ou parfois sombrer. Alors ma question très simple, qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est la religion ? Qu'est-ce qui...
Bah souvent les gens, surtout dans ce milieu-là, aimeraient entendre la religion. Et pour le coup, non, c'est vraiment l'éducation. Hein. C'est ce qui revient souvent dans le livre parce que c'est important pour moi de le souligner. J'ai eu la chance, et là-dessus on n'est pas tous égaux, mais j'ai eu de la chance d'avoir un père qui est très curieux et qui m'a... j'ai arrêté l'école très tôt. Et en fait, donc je pourrais avoir des vraies lacunes culturelles, on va dire, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a beaucoup appris, qui me faisait faire des dictées chez moi, qui m'emmenait en forêt pour me montrer les différences entre tel oiseau, tel insecte, qui est très passionné par plein de choses, par l'aviation, par des docus, enfin je regardais C'est pas sorcier avec lui quand j'étais gamin tout le temps, il me mettait devant des docus sur Arte, et donc j'ai eu cette chance-là qui m'impose un peu tout ça, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a structuré et qui m'a rendu, qui m'a empêché d'être dans une, comme vous expliquiez avant, mais il y a des gens qui peuvent s'en sortir très bien et d'autres très mal après ce genre de drame, parce que ce qui est fondateur c'est l'éducation.
Donc il était très présent, c'était le fait qu'il soit derrière vous, qu'il fasse attention à vous et...
Complètement, c'est ce qui a joué un énorme rôle pour ma reconstruction. Ouais.
Alex.
Alors moi j'ai une première question, si je peux me permettre de rentrer dans le domaine du privé, est-ce que vous avez des enfants ?
Non.
Et parce que du coup je me demandais, quand on a vécu des drames comme ça si jeunes, comment est-ce qu'on construit l'image peut-être de futur père qu'on va vouloir projeter à ses enfants, et comment on s'imagine fonder une vie de famille en ayant vécu des choses si dures étant enfant ?
Bah c'est vrai que, alors non, j'ai pas d'enfant, mais je pense que je vais forcément calquer dans tous les cas l'éducation que j'ai reçue. Maintenant, il y a des choses que mon père a pas toujours bien fait, je l'idéalise pas non plus, mais je pense qu'il y a une grande partie qui va être calquée sur sa façon de faire, et je vais essayer de corriger certaines choses qui m'a manqué peut-être avec lui. J'ai, selon moi, manqué de complicité, ce que j'avais avec ma mère. Mais par contre, sur l'éducation, il n'y a pas eu de problème. Mais voilà, il faut aussi qu'il y ait de la complicité entre un père et son fils. Pas seulement de jouer au foot, même ça, je ne l'ai pas eu avec mon père. Le partage, le côté, ce qu'on voit dans les films, ça joue au baseball et tout, là, ou au foot. J'ai pas eu mon père qui venait me voir à des matchs de foot, ce genre de choses. C'est peut-être ça qui m'a un peu manqué. Et donc, j'essaierai de faire en sorte de pallier à ça, quoi.
Mais en tout cas, un drame familial comme ça, c'est pas quelque chose qui ternit l'envie de fonder une famille et de juste.
Non, pas du tout. Je pense que même au contraire, ça peut. Étant donné quand on vit ce genre de choses, on a forcément un espèce de manque affectif. Ce qui, moi, s'est fait ressentir dans mes relations après. J'ai eu globalement que des relations longues. Et je pense que ça a été beaucoup lié à ça. J'avais besoin d'avoir, des relations stables, quelque chose de qui est un pilier dans ma vie, et donc non, au contraire, je pense que d'avoir une famille, d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose que je m'interdis, au contraire, mais je me dis que voilà, je verrai avec le temps comment ça se passera, je suis encore jeune.
Merci Louis, vous restez avec nous pour le reste des sujets.
Avec plaisir.
Si vous voulez pas parler, enfin faites ce que vous voulez, faites comme chez vous.
Si je le sens.
Si vous n'avez pas d'avis sur Bali Bali Yoko, vous n'êtes pas obligé de.
Bali, venez pas.
Alex, c'est rare, mais vous avez un coup de gueule aujourd'hui. Il concerne le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Baga Yoko. Comme d'habitude, il n'a pas manqué l'occasion de faire parler de lui en s'attaquant à un symbole de la France.
Alors, honnêtement, il a l'air vraiment très très sympathique, hein, ce Bali Bagayoko, hein, mais il a surtout compris comment jouer avec les médias en fait. Il multiplie les sorties médiatiques, les provocations, les rejets des fondements de la République, il s'en amuse. C'est devenu en fait un vrai influenceur et il aime ça, il kiffe. Hein. En ce moment, on est en pleine Coupe du Monde et il a lâché cette petite phrase dans l'Opinion la semaine dernière, je vous la cite. « Siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire, parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont citoyens d'ici mais aussi de là-bas. » Alors Bali Bagayoko, pourquoi ? Pourquoi ne s'exprimer que pour le rejet de tout ce qui participe à la construction de l'unité nationale ? Pourquoi n'avoir de cesse de dire que nous sommes tous français de la même manière en mettant systématiquement en avant toutes les différences et tout ce qui nous désunit ? Je comprends pas quel est son objectif, je ne peux pas croire qu'il pense sincèrement du tout que ce qu'il propose peut tirer la France vers le haut. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé quand vous avez vu cette petite phrase dans la presse, mais Bali Bagayoko, c'est à chaque fois une sortie, une déception je trouve.
Bah oui, une déception, vous êtes bien naïf pour être encore déçu de ce genre de personnage.
Oui, ouais, j'ai peut-être été trop naïf.
J'ai l'impression que en fait ce genre de personnage gagne des points à détester la France, voilà, il plaise à un certain électorat. David, je vous vois vous agiter, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Enfin, j'espère, sinon vous sortez du studio.
Bien sûr, cher maître, je suis d'accord avec vous. La révolution mange ses enfants. C'est-à-dire qu'il va faire encore plus, et là, on voit bien les journalistes qui essayent de dire « Ah, mais ça serait bien si un jour vous devriez, vous preniez la place... »
La tête du parti.
La tête du parti, la place de Jean-Luc Mélenchon, etc. Bon, enfin bref. Bon, mais ramenez-nous en tout cas Jacques Chirac qui s'en allait du Stade de France quand on sifflait la Marseillaise. Ça fait du bien. Liotte.
Bali Bagayoko, tout simplement. C'est-à-dire que... Il aime provoquer et comme l'a dit David, il va essayer de manger Jean-Luc Mélenchon. Il a moins d'un an pour pouvoir se déclarer à sa place, qu'il fasse au lieu de parler et croire qu'il va, entre guillemets, ramener plus de gens en allant, entre guillemets, critiquer. En plus, c'est pas ça le pire, c'est qu'il joue le même jeu que Macron. On est 100% français ou 100% algérien ou 100%. On est toujours deux origines à 100%. Et comme Macron le fait, bah il a décidé de le reprendre à sa sauce, de ramener à la sauce et les filles. Et il le fait à chaque fois. C'est toujours mieux expliqué avec lui. C'est ça qui est fou.
Est-ce qu'on peut juste rappeler quelque chose ? On critique souvent LFI, etc. Donc maintenant, ils ont des députés, etc. Mais qui a ramené en fait ce peuple, etc. Je veux dire, LFI n'a jamais gouverné, on est d'accord.
Absolument.
Non, mais ils sont contents de les avoir.
Oui, ils sont contents de les avoir.
Non, mais ils ont trouvé un électorat. Fois, ils ont trouvé un électorat. C'est tout.
Et qui a ramené cet électorat, s'il vous plaît ?
Bah, c'est Macron.
Merci.
Ça commence avant même. Mais...
Comment ?
Ça commence avant même.
Oui, mais
en vrai.
Oui, voilà. Sur les 10 ans, il n'y a pas eu de fermeture, entre guillemets. Ouais.
Mais d'ailleurs, en parlant de Bali Bagayoko et de la France Insoumise, Alex, vous deviez aussi nous parler de Sandrine Rousseau, la grande amie de LFI, et ma grande amie aussi, ceux qui ont écouté la dernière émission. Elle aussi a une passion pour l'accumulation des sorties de route.
Alors c'est clair, dès que Sandrine Rousseau elle intervient quelque part, on sait qu'elle va nous pondre un extrait qui nous amènera à nous demander comment elle fait pour toujours viser autant à côté. Cette fois-ci, elle participait à Aja, l'émission animée par Sam Zira. C'était un numéro consacré à la pédocriminalité, notamment suite à l'affaire Liana, évidemment. Oh là. L'ancienne animatrice d'Energie 12 et candidate de télé-réalité Maeva Anissa expliquait qu'en tant que mère, elle ne pourrait pas s'empêcher de se faire justice elle-même si on s'en prend à ses enfants. Alors écoutez la réponse lunaire de Sandrine Rousseau. Sur une échelle de 1 à 10, des réponses les plus lunaires, dites-nous combien elle mérite.
Moi, je voudrais quand même dire aux enfants qui ont subi des agressions et des viols qu'ils peuvent avoir une vie adulte et que cette vie adulte, grâce aux soins, maintenant, grâce à l'accompagnement, peut tout à fait être bien. Ce ne sera pas s'il ne s'était rien passé. Mais ils peuvent vivre avec ça. Et c'est important de le poser parce que vu le nombre de personnes concernées, il est aussi important de leur donner l'espoir.
Non, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que je suis énervée.
Va peut-être guérir.
Alors, ce jour-là, pour les invités de Sam Zira, je pense que le thème, c'était « À toucher le fond, mais creuse encore ».
Non, mais attendez, c'est une blague. C'est-à-dire que, après, je vais vous laisser terminer, mais juste, je trouve ça scandaleux. Il faut arrêter de toucher aux enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de justification à avoir.
Elle ne parle pas de ça, là. C'est pas le problème qu'on touche, c'est qu'après, on peut s'en sortir.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Non, mais vous vous rendez compte, quand même, de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, limite, elle, en fait, je vais pas, parce qu'après, on va m'attaquer, j'ai la flemme de payer 30 000 euros d'amende, comme certains. Mais, je veux dire, il y a un moment donné, elle dit presque, bah, en fait, c'est pas grave, qu'un enfant se fasse violer. De toute façon, il y a des manières de le réparer. Mais en fait, un enfant blessé, c'est un enfant blessé à vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les psychanalyses et tout ce qu'on veut. C'est des enfants qui, enfin, pour la majorité, en tout cas, c'est des gens qui auront une vie vie sexuelle très compliquée, qui auront des relations très compliquées.
Une vie compliquée,
qui auront certainement des traitements. Donc, faut arrêter avec ça. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Je vous laisse continuer.
Non, bah, alors, attendez, parce que comme je disais ce jour-là, pour les invités de Sam Zira, le thème c'était à toucher le fond, mais creuse encore. Hein. Donc, parce que ce jour-là, il y avait aussi l'ancien chroniqueur de BFM TV, Pablo Pio Vivien. Il a voulu apporter un petit peu de substance au débat, hein, vous comprenez. Hein. Du coup, il a évoqué avec ferveur la question de la réinsertion des criminels.
Son cardigan rouge.
Ah, bah, alors là, alors, niveau wokisme, vraiment, c'est niveau master, ça, minimum.
La République, elle fait une promesse à tous les gens qui la composent. Cette promesse, c'est de dire, vous pouvez changer. C'est pour ça qu'on n'a plus la peine de mort aussi. C'est-à-dire que la peine de mort, bah, en gros, on décide, ok, t'as tué, t'as violé, je sais pas quoi. La peine de mort, c'est le coup près final et genre, tu ne peux plus changer. Mais 30 ans après, on est une autre personne. La promesse de la République, c'est de dire, ok, tu as commis des choses même absolument innommables, comme les choses que t'as rappelées à Anissa. Il va y avoir de la prison, donc un moment de privation de liberté, mais on va aussi t'accompagner pour que tu puisses changer. Mmh. Pour ça, il faut se donner les moyens de les accompagner.
Ouais, franchement, les deux réunis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le duo est pas mal.
Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, allez violer des enfants, c'est très bien, dans 30 ans, vous irez mieux. C'est quoi, c'est scandaleux?
Non, même pas vous irez mieux, vous serez une meilleure personne, différente.
Bah oui. David.
Je suis d'accord avec Paya, et comme je suis constant et que je dis depuis le début dans cette émission, la gauche a tous les droits. Elle a le droit de tout dire, elle a le droit de tout. Voilà, Cohn-Bendit, etc. Mais tous ces gens-là, ils
juste,
ont été.
Non,
mais
par rapport, revenez plus sur. Enfin, focalisez-vous sur les propos. C'est quand même scandaleux.
C'est pas ça, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que déjà, Sandrine Rousseau, elle répond à une phrase de la personne, la personne à qui elle répond, vient de dire, dans l'émission, elle dit mais moi, il y a quelqu'un qui touche à mon fils, je vais chez lui et je le tue. Donc, entre guillemets, elle aurait pu répondre déjà premièrement, on se fait pas justice soi-même, comme tout bon politique doit faire, mais elle l'a pas fait. Deuxièmement, elle dit, toucher un enfant, c'est pas grave, sous-entendu, il sera réparé, comme vous venez de le dire, Baya. Donc là, on a encore touché plus le fond. Et là, on a encore quelqu'un qui vient surenchérir en disant, c'est pas grave, la prison, ça répare. Vous avez touché un enfant ou quoi que ce soit, vous allez faire 30 ans de prison, et puis vous irez mieux, c'est très bien. Entre deux balades au Louvre où vous pourrez vous évader, c'est chambé.
Vous en pensez quoi? Parce que vous avez quand même vécu un drame, ouais, vous avez quand même un avis là-dessus.
Ouais, alors du coup, c'est assez particulier, parce que moi, la personne qui a assassiné ma mère et mon petit frère s'est suicidée en prison.
Ah bah voilà.
Donc en fait, ils devraient tous faire ça, selon moi, ça serait la meilleure chose à faire. Il faudrait qu'on les accompagne dans cette démarche, selon moi, hein, bien sûr. Hein. Mais mais évidemment, c'est assez ridicule. Moi, c'est vrai que c'est des propos qui me... Je pourrais pas dire qu'ils me choquent, parce qu'aujourd'hui, je suis plus choqué par ce genre de choses, mais c'est des gens, j'ai l'impression, qui sont complètement déconnectés de... Enfin, il faut avoir vraiment rien vécu ou ne pas connaître des gens qui ont vécu des choses pour pouvoir sortir. On se préoccupe en fait uniquement on se préoccupe plus des victimes, quoi. On se préoccupe uniquement des gens qui ont causé la mort ou qui vont violer des gens. Enfin, voilà, c'est ça la préoccupation.
Non, mais c'est ça, c'est que maintenant, ce genre de personnes vont dire « Mais attendez, regardez les conditions déplorables des pauvres prisonniers.
Voilà.
Venez, on leur met... » Je me souviens, j'avais écrit un article dans La Corrette il y a quelques années. C'était des sessions karting, ils cuisinent dans leur chambre. Il y en a qui ont des chambres, on dirait des chambres d'hôtel, alors qu'il y a des gamins à la campagne qui n'ont même pas l'argent de s'acheter une télé. Enfin, je veux dire, on se préoccupe des agresseurs, mais pas des victimes. Elliot.
Le plus gros problème, il est là aussi. C'est-à-dire que croire que la prison va réparer les choses, et du coup, je vais rebondir sur un truc qu'on a dit aussi la semaine dernière, qui était de dire on n'a pas promu la peine de mort, mais on a parlé d'un débat qui pouvait revenir, et du coup, la peine de mort, aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit bien ou non. Ce que je pense surtout, c'est que en prison, aujourd'hui, vous avez les téléphones qui rentrent, vous avez de la drogue qui rentre, vous avez le droit de faire... Enfin, il y en a, ils ont quand même des stocks que même une famille avec 4 enfants ne peut pas se faire. Vous trouvez ça normal?
Non, mais c'est absolument scandaleux.
Juste pour aller dans votre sens, on a quoi aujourd'hui? On a aussi un organisme qui s'appelle le contrôle des lieux de privation. Enfin, c'est-à-dire qu'on a créé un organisme spécial pour s'assurer que, en fait, les prisonniers, ça se passe bien pour eux. Voilà, pour aller dans votre sens.
C'est scandaleux. On va passer à un tout autre sujet. En ce moment, la question de l'utilisation des drogues revient un peu au centre du débat public. Et d'ailleurs, une nouvelle loi sur ce sujet pourrait bientôt arriver. Alex, vous nous expliquez et on va voir ce que vous en pensez autour de la table.
Alors avant d'aller plus loin dans les explications, je voulais qu'on revienne rapidement sur les propos de Mathieu Delormeau il y a quelques jours sur BFM TV. Sur le plateau d'Alain Marchal, il faisait la promotion de son livre où il évoque son passé sous addiction aux drogues et il a fait une révélation concernant la consommation de nos politiques. On l'écoute.
Vous avez fréquenté, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez fréquenté bon nombre de soirées, ouais. Bon nombre d'endroits. Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit?
J'en ai eu dans mon appartement. Hein. Ah bah évidemment,
Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des hommes politiques, évidemment.
Et qui prenaient
De la cocaïne, de la 3MMC, cette fameuse drogue un peu...
Donc, il faudrait faire aussi des tests chez les policiers, par exemple.
Bah, évidemment, pour l'instant, ils en font chez les policiers, ouais. Mais ils en font quand il y a un accident.
Alors, cette déclaration, elle arrive dans un contexte où, pour détecter les consommations de drogue au sein des cabinets ministériels, Sébastien Lecornu a ordonné des dépistages inopinés et obligatoires. D'ailleurs, il a accepté de lui-même se soumettre à un test devant les caméras. Ça concerne plusieurs catégories de fonctionnaires. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu a lui-même accepté de faire le test devant les caméras. Et en théorie, la nouvelle mesure prévoit des sanctions en cas de test positif. Et je dis en théorie parce que ça sera au ministre d'apprécier les conséquences qu'il convient de tirer si jamais une personne de son équipe est détectée. Alors, je pense qu'on va attendre voir de ce qu'il en sera dans les prochaines semaine, mais possiblement une loi pour vraiment contrôler la drogue chez les ministres et les hauts fonctionnaires.
Vous en pensez quoi de la mesure, David ?
Gadget. Parce qu'ils trouveront toujours un moyen de faire ça à côté, dans le privé, enfin dans des soirées privées,
ça
etc.
Reste.
Hein oui, voilà,
ça reste dans le sang.
Comment ?
Bah, ça reste dans le sang.
Non, non, mais David, ils prennent pas des traces de coke dans leur bureau avant d'aller aller dans l'hémicycle. Hein.
On n'en sait rien. Vous êtes allé, vous, à l'hémicycle ? Dans
ça
tous les
voit.
Bureaux ?
Non, c'est vrai.
Bon bah alors voilà.
Je vous l'accorde.
Aujourd'hui, il y en
non,
a c'est tellement
répandu qu'on
peut le savoir.
Non mais dans le sens où en fait, quelqu'un qui prend de la drogue, par exemple la cocaïne, ça a un effet sur le cerveau pendant une semaine. Donc c'est à dire que si vous en prenez samedi, bah le samedi d'après, vous avez quand même les effets. Donc peu importe que ça soit dans, enfin c'est pas forcément à l'Assemblée quoi.
Mais juste, excusez-moi, on est d'accord tous ici que en France la drogue est encore illégale. Et c'est juste le point clé. Donc que t'ailles à l'hémicycle ou que t'ailles chez toi avec de la drogue, c'est illégal. Il y a un moment, faut arrêter.
Non, mais c'est ce que je dis.
Bah oui, mais donc, quoi qu'il arrive, ça reste dans le sang. Si un dépistage doit être fait, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle quand même qu'on a Andy Kerbrat, c'est ça ? Le mec de la LFI, là, qui avait soi-disant acheté un jeune, mais un mineur qui n'a rien eu,
avec
et en plus
enveloppe.
Qui va pouvoir revenir avec son enveloppe, exactement. Bah, il a rien eu. Donc en fait, même ce qui est légal pour des députés et pour des assistants parlementaires, n'est pas illégal pour eux. Donc moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est si c'est illégal et qu'on voit qu'il y a des dérives à l'Assemblée ou même n'importe où dans des institutions, il y a un dépistage qui est mis en place, c'est tout. Quand on est alcoolique et qu'on nous dit de mettre un éthylotest pour pas prendre le volant, bah, il y en a qui le font.
Moi, je suis d'accord avec vous. Et
c'est tout.
J'aimerais que ça aille encore plus loin. Il y a une banalisation des drogues dures en ce moment. Je trouve ça dingue. Ça fait quelques années, là. Je ne sais pas. Ils ont ouvert peut-être les ports ou je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a une banalisation de la cocaïne. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire tout le monde en prend parce que c'est un terme qui
c'est pas gentil pour ceux qui n'en prennent pas.
Voilà, c'est pas sympa pour ceux qui n'en prennent pas. Mais moi, je le vois bien. Que ce soit dans le milieu politique ou dans le milieu de la télé, c'est quelque chose qui est assez. C'est limite, tu dis ah ben je prends pas de coke. Ah bon, mais t'es sûr, tu veux pas une petite trace.
Bah déjà, quand tu bois pas, c'est problématique.
Oui, c'est ça. Tu veux pas une petite trace. Et en fait, c'est devenu quelque chose d'assez banal. Il y a des nouvelles drogues de synthèse comme la MM3C ou je sais pas comment on appelle ça. La Toussi aussi, qui est une espèce de cocaïne rose. Et en fait, il y en a partout. Et les gens en prennent de plus en plus jeunes. Moi, je vois plein de TikTok passer de gens qui se disent j'ai commencé à 13-14 ans. Voilà, la sortie du lycée. Bon, on en prend pour aller en soirée. C'est très cool. Mais vous allez voir dans 5-10 ans, mais les
ravages.
Les ravages qu'on va pouvoir observer.
Dans votre sens, comment ça s'appelle, Léna Situation et
oui,
Lila Lassagne
avec un podcast,
en lui disant moi j'ai tout fait pour te protéger, etc. Enfin, pour aller dans votre sens, ils en parlent normalement, enfin je veux dire, t'as dit banaliser, etc. Moi j'ai une question pour vous, Baya, qu'est-ce que vous pensez du fait que quelqu'un qui en a, je vais pas dire profité, mais qui a été dedans, arrive et fasse un livre et le dénonce?
Moi je trouve ça très bien. Honnêtement, non mais vraiment je trouve ça très bien. Je trouve que honnêtement Mathieu Delormeau, c'est pas pour l'encenser ou quoi que ce soit, mais je trouve que pour le coup, déjà il a un courage énorme de pouvoir en parler dans les médias, d'avoir écrit un livre là-dessus. On peut dire oui, c'est pour gagner de l'argent, etc. Peu importe. Je pense que ça va aider énormément de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de dire qu'ils ont des soucis d'addiction, et je trouve que ça peut aider de discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose que nous et qui nous aide à trouver des solutions, parce que parfois il y a des gens qui se sentent seuls en fait. Il y a des gens qui disent, ça commence très simplement. Moi, je sais, j'ai plein d'amis où j'habite à Paris, donc c'est quoi que même dans les campagnes maintenant, c'est très répandu. Mais il y a des jeunes, voilà, ils en prennent une fois par semaine au début. Ils disent, bon, ça va, c'est qu'une fois par semaine.
Je maîtrise.
Ouais, je maîtrise, c'est une fois par semaine. Puis en fait, tu te rends compte, t'en prends une fois et tu te dis, ah putain, ah là je bois, ah merde, ah ça serait bien une petite trace quand même. Et ensuite, ah bah ouais, mais non, mais une trace ça avait pas effet, dans 30 minutes j'ai besoin d'en prendre une autre. Et après, et au fur et à mesure, bah, on se rend compte que on tombe là-dedans, qu'on peut plus sortir sans prendre de la cocaïne. Et c'est un tabou qui doit être complètement renversé, parce que En fait, on est arrivé à un stade où il y en a trop qui en prennent. En fait, il y a trop de jeunes qui en prennent, donc il faut mettre les cartes sur table et dire, écoutez, c'est pas une honte d'en avoir pris parce que y en a, c'est tellement répandu qu'aujourd'hui, il faut vous soigner, il faut arrêter. Moi je fais partie des gens qui vont dire, mais en fait, juste arrêtez tout, il n'y a pas besoin de thérapie, juste tu te tapes la tête contre le mur et tu dis, j'arrête. À un moment donné, il faut une génération de mecs qui ont des couilles et des meufs qui ont des couilles et qui se disent, maintenant, j'arrête. On arrête les thérapies de qui durent des années, on arrête de faire des trous dans la sécu avec des médicaments qui vont encore plus vous rendre malade. J'arrête, c'est tout. Changez de fréquentation, ne sortez plus en soirée, restez dans votre lit, écoutez Radio Courtoisie et ça ira mieux. Elliot.
Non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur un truc que vous avez dit. Mais je comprends pas, ça se banalise de plus en plus. On a ouvert les ports ou quoi? Bah non, on a juste arrêté d'avoir de la sécurité partout. C'est-à-dire qu'on n'a plus de contrôle aux frontières, on n'a plus de contrôle dans les villes. C'est-à-dire qu'on veut plus. Il y a certaines villes qui veulent pas mettre de caméras. On a du mal avec les narcotrafiquants. On a du mal avec certains maires qui ne veulent pas faire appliquer la loi et qui veulent désarmer leur police. Bah à partir du moment où vous voulez réduire le pouvoir des services publics, que ça soit la police, les gendarmes et ainsi de suite, vous êtes obligé d'être bloqué par et du coup vous laissez gangréner des choses comme ça.
Louis.
Et puis, c'est 80 euros le gramme, ils trouvent où l'argent ces gens-là? Ah oui, voilà.
C'est ça que je me pose question. Justement, maintenant, il y a des...
Ça a baissé.
Non, mais il y a des dérivés qui coûtent moins cher.
Non, mais même la cocaïne, c'est surtout la manière dont... Enfin, c'est-à-dire que avant il fallait se déplacer, aller dans les quartiers. Maintenant, vous recevez des messages sur Telegram.
Mais il y a des livreurs Uber et
il y a
tout.
Il y a Uber Shit et Uber Coke maintenant. Ouais, c'est-à-dire qu'ils viennent chez vous, ils vous livrent la drogue. Il y a des grilles avec tous les tarifs.
Ils font même des gâteaux avec.
Oui, ça c'est la... Oui, on va pas donner
vous
des mauvaises
les
idées.
Services premium. Non,
parce que
ça je l'avais pas sur mon menu.
Malheureusement, aux États-Unis c'est très, c'est très
très répandu.
Très répandu. Non, mais... Et ça s'est importé ici.
Oui, et moi ce qui me choque c'est la facilité c'est la facilité d'accès à ces drogues-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Telegram, vous avez un ami que vous avez déjà vu prendre dans les toilettes. Il vous envoie les numéros, salut, machin, je veux ça, dans combien de temps? Et il vous montre la drogue. Enfin, je veux dire, vous sortez plus de chez vous, vous prenez pas de risque, vous n'allez pas dans les quartiers pour éviter de vous faire emmerder.
C'est le marketing.
Donc en fait, maintenant, il y a un marketing, on l'a vu même sur Snapchat.
Des petits pochoirs.
Ils vous donnent de la drogue en plus pour vous faire aimer ça et pour
fidéliser.
Des
cartes de fidélité, j'ai vu et tout.
Non, mais c'est quand même un scandale. David.
Non, mais je voulais aller dans le sens d'Eliott. Tu dis, on n'arrive plus les narcotrafics, etc., à faire appliquer. Si, regarde, pendant le Covid, on a réussi. Je voulais rebondir sur le Covid, on a réussi à fliquer les gens, à être derrière eux. En fait, quand on veut, quand il y a une volonté.
Bah, on a réussi à sécuriser
quand
la
on
ville
veut,
de
on,
Paris
on peut,
avec
je vais demander à ce qu'ils la mettent ici, là, juste en
ouais, très bon mindset.
Alex.
Et surtout, moi, ce qui m'embête, c'est que je reviens sur ce que vous disiez, Eliott. C'est quand même toujours illégal à ce que je cherche la drogue. Merci. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais je vous expliquais que Sébastien Lecornu disait que c'était à chaque ministre qui piège un fonctionnaire de son équipe de tirer les conséquences par rapport aux sanctions. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des sanctions légalement prévues par la loi, mais ça va être aux ministres d'appliquer selon leur bon vouloir.
Louis, merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour rappel, votre livre est disponible dans toutes les librairies ainsi que sur Internet. J'aurais dû être là aux éditions Fayard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Des ventes, mais surtout... En fait, le mieux, c'est que ça serve à des gens, s'il y a des gens qui ont besoin de se retrouver dans ce discours, quoi.
Merci à vous, merci à tous les chroniqueurs.
Merci
et puis on vous retrouve la semaine
merci.
Prochaine de 15h30 à 17h pour On va pas se mentir.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.